Ceci, c'est pour toi. Ce petit quelque chose, c'est pour maman. Donne ça à... Prépare-les, ainsi que ce petit... Merci, frère Neville. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour, mes amis. C'est un privilège d'être de retour au tabernacle ce matin. Je me sens frais et dispo. Avant-hier, je n'étais même pas capable de parler. J'avais attrapé ce petit virus qui circule, vous savez. Ça descend dans la gorge des gens et les enroue. Mais le Seigneur m'a aidé et m'en a délivré, afin que je puisse vous parler ce matin. Nous sommes contents de voir que le tabernacle est plein à craquer. Il y a des gens qui sont debout. J'aimerais que nous ayons des sièges à offrir à ces gens qui sont debout. Nous serions contents si nous en avions, mais je crois que tous les sièges sont occupés. Je sais que vous ne seriez pas à l'aise de venir vous asseoir avec ces enfants ici à l'autel, le dos tourné comme ceci. Bon, ça fait quelques jours que j'étudie l'histoire, et je me suis dit que ce matin, au lieu de prêcher, je pourrais simplement donner un enseignement sur la parole de Dieu pendant quelques instants. Ainsi donc, nous terminerons probablement un peu tard. Alors je vais, si certains d'entre vous acceptent de changer de place avec ceux qui sont debout ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment bien de le faire pour leur permettre de se reposer un peu. Aussi, bon nombre d'amis, de mes amis, viennent. Certains d'entre eux viennent de très loin, de tout là-bas, en Géorgie, de l'Ohio, du Tennessee, de différents endroits, de l'Illinois, du Missouri, du Michigan. Ils viennent de Chicago, simplement pour assister à une petite réunion comme celle-ci, au tabernacle. Je suis tellement reconnaissant pour de tels gens. Et pas seulement ça, mais j'aimerais dire ceci, non pas dans l'intérêt de, mais dans l'intérêt de la parole de Dieu. Presque tous ces gens, non seulement ils viennent, mais ils apportent aussi leur dîme pour aider à l'avancement de l'Église. Eh bien, voilà des amis fidèles. On ne peut vraiment pas oublier des gens comme eux. Et parfois, il se peut que je doive dire quelque chose qui les met en pièces. Vous voyez donc ce que ça signifie à ce moment-là. Dans votre cœur, vous ne voulez pas le faire. Mais il y a quelque chose qui dit, il faut le faire. Voyez, alors, on est obligé de le faire. Et de voir tous ces gens qui viennent de partout et qui essaient de servir le Seigneur et qui croient au ministère que le Seigneur m'a donné et qui croient que je suis son serviteur et que je ne leur dirai pas quelque chose de faux. Alors, avec la plus profonde sincérité, je dois vraiment faire tout mon possible pour conduire les âmes de ces gens, sachant qu'ils ne viennent pas ici simplement pour être vus, alors qu'ils roulent sur des routes qui traversent des montagnes et des collines verglacées, et sur des routes complètement embouteillées, et que leurs enfants ont faim et sont fatigués, et que leurs bagages sont entassés dans le coffre de la voiture. Vous savez, ça, c'est difficile. Cependant, la Bible dit, en parlant de gens comme eux, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le monde n'est même pas digne de telle personne. Je le dis parce que c'est ce que je pense du fond du cœur. Et il y en a beaucoup qui sont d'ici, de New Albany, de Louisville, et de tout près d'ici, du Kentucky, et de différents endroits pas trop éloignés. Mais ils font tout de même preuve de fidélité en venant ici. Ils doivent rouler sur le verglas, dans la neige et tout le reste, pour venir ici. Bon, dimanche prochain sera la veille de Noël. Je pensais que j'avais un message de Noël pour l'Église, mais j'ai ressenti une vive sympathie pour les petits-enfants. Je dirais que si j'étais ici, probablement que les tout-petits, beaucoup venant de très loin, manqueraient leur Noël et tout. Ce serait donc un peu dur pour ces petits. Mais avant d'aller, bon, nous, je sais que nous autres, nous n'enseignons pas à nos enfants un mythe comme celui du Père Noël. Nous ne croyons pas dans le fait de mentir à qui que ce soit. Alors, vous n'allez pas mentir à vos enfants. Une chose pareille, c'est le summum de la mythologie. Qu'une telle chose prenne la place de Christ à Noël. Et Noël a perdu. Noël n'est plus un temps d'adoration. C'est une fête. On boit. On joue à des jeux d'argent, on fait la bombe. C'est païen au possible. Ce n'est pas, je voulais, peut-être qu'après Noël, je parlerai de nouveau de Noël, vous voyez, afin de ne pas priver les petits. Mais on ne peut pas dire ça à de si petits enfants comme ça. Ils voient qu'à Noël, de petits enfants reçoivent des cadeaux de Noël et tout, et ils ne comprennent pas. Vous voyez, ils sont trop petits. Et là, nous devons penser à eux, savoir qu'ils ont des choses en commun. Nous devons nous efforcer de nous souvenir de ces petits-enfants, qu'eux-mêmes. Est-ce qu'on m'entend trop fort sur ceci, frère? Est-ce que son volume est trop haut? Est-ce que vous m'entendez bien là-bas, au fond? Hein? Attendez, je me tiens trop près. Quel micro est ouvert? Les deux? Celui-ci et celui-là? Je crois que c'est celui-là qui est bon. Bon, ceci, c'est comment? Est-ce que c'est mieux? Bon, très bien. Donc, les tout-petits doivent comprendre. Vous savez, ce sont des petits-enfants. Et nous devons nous souvenir que nous aussi, nous avons déjà été des petits-enfants. Et je me souviens, quand nous étions petits, on allait couper un buisson de cèdre quelque part. Et maman faisait du maïs soufflé. Puis, elle en faisait une guirlande pour le décorer. C'est à peu près tout ce qu'il y avait sur cet arbre. Mais de vieilles petites chaussettes usées étaient suspendues là comme... Et oh, elle se procurait peut-être un petit cornet de bonbons, de petits bonbons durs. Elle m'en donnait deux ou trois. Et deux ou trois à Humpy, et deux ou trois à un tel. De tout petits morceaux de bonbons, nous les gardions toute la journée, et nous les sucions, vous savez. Nous les emballions dans un petit morceau de papier, et nous les mettions dans notre poche. Et si on nous donnait un pistolet capsule, ou une petite trompette jouet, c'était fantastique. Ça nous procurait une grande joie. Évidemment, aujourd'hui, c'est différent. Les pauvres réussissent à se faire un peu d'argent, ce qui leur permet d'offrir plus de choses à leurs enfants. Ils s'habillent mieux, mangent mieux et vivent mieux. Et de manière générale, je pense que les gens sont mieux lotis au vu des salaires d'aujourd'hui. C'est pour cela que vous devez offrir quelque chose aux petits-enfants. Mais assurez-vous de toujours leur dire que le Père Noël n'existe pas, parce que ce n'est pas vrai. Un de ces jours, ils viendront vous voir et vous diront « Hé, Jésus !» Alors, voyez, alors dites-leur la vérité. Soyez honnête avec tout le monde. Dites la vérité, et surtout à vos enfants. Vous ne diriez pas quelque chose de faux, parce qu'ils se mettraient à dire « Ils croient que vous êtes chrétien, et ils croient que ce que vous leur dites, c'est la vérité. » Assurez-vous donc de leur dire la vérité. Et tout se passera bien. Bon, et aussi je veux avoir au moins un soir de plus, ou un jour au tabernacle, si je le peux, avant mon départ pour mes prochaines années de service, ma prochaine année de service plutôt. Et si c'est la volonté de Dieu, je veux essayer de tenir beaucoup de réunions outre-mer cette année, car je sens qu'il y a un besoin pour cela, particulièrement en Suisse, en Suède, en Norvège, dans bon nombre des pays scandinaves et en Asie. Je sens que nous devrions absolument prier pour ces choses afin de connaître la manière dont le Saint-Esprit agit et la manière dont il nous conduira et ce que nous devrions faire. J'ai étudié l'histoire de l'Église selon Broadbent et selon Hazeltin et aussi beaucoup de leurs commentaires à ce sujet. Les pères de Nicée, et hier, j'ai fini de lire toute la biographie de Saint Martin que l'Église catholique a refusé de canoniser. Dieu s'en est chargé. Alors il, de sa vie extraordinaire, et que les mêmes signes et prodiges ont accompagné cet homme tout au long de sa vie, qu'il a ressuscité de morts, chassé des mauvais esprits, parlé en langues inconnues et eut des visions et tout. Oh, quel grand homme! Et pourtant, le secret même de sa puissance était son humilité devant Dieu. Nous voyons aujourd'hui que l'Église, même si on enseigne la puissance et qu'on n'y enseigne que les signes, accompagne le croyant, nous voyons que les gens sont tout enflés d'orgueil. Moi, je suis grand, toi, tu es petit. Et ça, ce n'est pas comme l'Église primitive, vous voyez. Ils étaient humbles, gentils les uns avec les autres, doux et compréhensifs. C'est tellement différent aujourd'hui. Et je me demande si tout cela ne nous a pas éloignés du cœur même du message, qui consiste à être humble. Restez, plus vous serez humble, mieux Dieu vous utilisera. J'ai étudié la mythologie et tous ces mythes. Même Noël est un mythe. Ce n'est pas... Il n'y a rien de vrai au sujet de Noël. Noël n'est même pas mentionné dans la Bible. Jamais le jour de la naissance de Christ n'a été adoré. Pareille chose n'existait pas. C'est un dogme catholique romain et non un enseignement chrétien. Aucune écriture pour appuyer cela dans la Bible, ni pendant les 100 premières années qui ont suivi la Bible. Voyez, rien de tout ça. Ce n'est qu'un mythe. Le Père Noël, c'est commercial et tout. Toutes ces choses ne sont qu'un grand conglomérat. Si vous retournez en arrière et étudiez comment cela a commencé et que vous regardez aujourd'hui, vous verrez où nous en sommes. Il ne reste plus rien. Rien ne peut nous aider, si ce n'est la venue du Seigneur. C'est tout. Rien ne peut nous aider à sortir de ce chaos, si ce n'est la venue du Seigneur. Est-ce que c'est ce petit interrupteur qui sert à contrôler l'enregistrement? Je ferais peut-être mieux d'exercer un contrôle sur toute cette chose, de ne pas laisser sortir cette bande, parce que c'est très tranchant. Mais je dis ceci afin, est-ce que l'enregistrement est en cours? Ne vendez pas ces bandes, voyez. Ces bandes ne sont pas à vendre. Elles peuvent être distribuées aux membres de l'Église et tout. Mais parce que c'est, cela va certainement semer la confusion. Voyez, alors retenez-la, jusqu'à ce que nous présentions cela autrement. Maintenant, avant que nous abordions le message, que tout le monde s'efforce de bien réfléchir et d'être aussi tranquille que possible. Je ne prendrai pas trop de temps, mais je veux prendre mon temps afin de faire que ça pénètre profondément, pour que vous puissiez vraiment le voir. Bon, commençons d'abord. Bon, si tout est en ordre, je crois, jusqu'ici, y a-t-il... Oui, que ces dames qui sont debout le long du mur, là-bas, viennent ici. Il y a de la place pour vous ici, mes sœurs. Oui, il y en a une ici devant. Il y a une chaise juste ici derrière. Il y a des enfants assis ici sur l'autel. Si quelqu'un veut se lever, un petit enfant, pour céder son siège à quelqu'un, un adulte qui est debout, eh bien, il y a de la place ici à l'autel pour les enfants. Alors les adultes pourraient occuper ces sièges. À vous, les dames qui sont debout là, derrière le pilier, si vous, c'est tout au fond de ce côté-ci dans le coin, mais ça, c'est mieux que de rester debout. Si vous voulez rester debout, voici quelques places sur l'estrade. Bon, si certains d'entre vous vous, les frères, aimeraient venir ici. Ces enfants ont... En voici un qui est assis ici, à côté de frère Way. Venez donc, asseyez-vous ici. Ainsi, tout le monde, vous serez vraiment à l'aise. Vous sentir, vous mettre vraiment à l'aise. Voici une place, juste ici, frère Shelby. Ici en haut, juste ici sur l'estrade. Si vous voulez monter ici et vous asseoir près de nous, juste ici. Frère Evans et frère Charlie et vous, voici un siège, juste ici. Et un autre, juste ici. Et deux autres, juste ici. Avancez, mon frère, qui vient de... Avancez tout simplement. Installez-vous confortablement pour que nous puissions faire en sorte que tout le monde soit le plus tranquille possible pour le service, afin que vous ne soyez pas fatigués et là, et que vous restiez debout. Certains d'entre vous, les frères, qui sont là, au fond, la sœur qui est là-bas, tout au fond, dans le couloir, celle qui est debout, tout au fond, dans le couloir, vous êtes, il y a encore de la place. En voici une autre. C'est un tabouret de piano que quelqu'un peut utiliser. Si vous voulez venir vous y asseoir, ce serait en ordre. Je vois là-bas, à l'arrière, une dame qui fait signe pour indiquer qu'il y a un siège vide à côté d'elle. Alors, c'est très bien. Bon, mettez-vous bien à l'aise, autant que possible. Ainsi donc, pendant que nous nous installons, il est environ 10h20, 10h23, en ce 17 décembre. Il pleut ce matin, ici à Jeffersonville. Il fait mauvais à l'extérieur, mais nous nous sentons bien à l'intérieur, même très bien, sachant que nous nous approchons, que la venue du Seigneur est proche. Et que l'éternité approche. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de pouvoir nous tenir ici ce matin pour apporter aux croyants et à l'incroyant la parole du Dieu vivant. Nous espérons que ce jour sera pour nous tous un grand jour où nous comprendrons les choses du Seigneur. Maintenant, courbons la tête un instant pour prier. Pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y en a qui voudraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière, qu'ils lèvent simplement la main vers Dieu. Gardez votre demande dans votre cœur. Merci. Notre Père Céleste, voici que nous sommes maintenant tous assis dans le tabernacle. Les microphones fonctionnent. L'enregistrement est en cours. Les chrétiens sont en train de prier. Et certains ont fait savoir qu'ils ont des requêtes. Depuis 2 ou 3 semaines, j'ai continuellement étudié le message d'aujourd'hui. C'est juste quelques mots que le Saint-Esprit pourrait utiliser pour faire pénétrer le sujet profondément dans le cœur des gens, afin qu'ils puissent voir le temps dans lequel nous vivons et se préparer à rencontrer le Seigneur Dieu. Nous prions pour tous les nôtres qui sont malades et affligés, partout. Ô Jésus, souviens-toi de ton Église, de l'Église universelle, partout dans le monde ce matin. Il y en a qui sont dans les bois, d'autres dans la vallée de la décision, et d'autres encore au sommet de la montagne. Partout dans le monde, tes enfants comptent sur toi et ils t'invoquent. Et comme l'a dit Jean autrefois sur l'île de Patmos, « Oui, viens, Seigneur Jésus ». Nous sommes bien conscients de la présence de l'ennemi, lui qui est toujours là pour faire obstacle, pour arrêter et pour faire tout ce qu'il peut. Mais, ô Seigneur, donne la foi à tes enfants ce matin, la puissance pour s'élever au-dessus de l'ennemi, pour ouvrir leur cœur et faire de leur âme un terreau fertile, dans lequel cette parole de vie peut être semée et produire une grande joie et une grande moisson. Je te prie, Seigneur, de bénir ta parole et tes serviteurs. Viens au secours de ma faible voix, afin que je puisse tenir bon par l'onction du Saint-Esprit. Et puis, lors de la ligne de prière, envoie la puissance et la foi, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas une seule personne faible parmi nous lorsque nous quitterons ce bâtiment. Accorde-le, Seigneur. Nous savons que nous vivons au temps de la fin. Et nous te demandons de nous bénir maintenant, alors que nous continuons à nous attendre à toi et que nous lisons ta parole. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Maintenant, je vais lire 2 ou 3 passages de l'Écriture, et comme je l'ai annoncé dimanche dernier, qu'aujourd'hui, j'allais essayer de parler sur le christianisme contre l'idolâtrie. Ça, c'est notre sujet pour ce matin. Et là, je ne suis pas un théologien, je ne suis absolument pas un érudit de la Bible. Je ne suis qu'un illettré qui aime le Seigneur Jésus de tout son cœur. Je ne prétends pas être un théologien ou je n'essaie pas de prendre la place de l'un d'eux. Mais j'essaie simplement, en toute humilité, d'expliquer ces choses que je sens, que le Saint-Esprit m'a révélées et que je dois communiquer à mon Église. Car j'ai tout intérêt à voir grandir cette Église, à voir cette Église spirituellement saine. J'y ai tout intérêt parce que cette Église est de l'intérêt de Dieu. Et ce qui est de son intérêt est de mon intérêt. Donc, je dois y veiller. Je lisais les écrits des premiers historiens qui rapportaient combien Irénée et les autres préservaient leur Église des souillures et des choses du monde, et combien ces enseignants d'autrefois parvenaient vraiment à s'en tenir strictement à cet évangile. À cette époque, la Bible n'était pas écrite sous la forme que nous la connaissons maintenant, pas avant la Réforme, quand Luther l'a fait imprimer. Mais ils avaient ce qu'ils appelaient l'Évangile et l'apôtre. L'Évangile et l'apôtre. C'est à cela qu'ils s'en tenaient. Maintenant, quant à nos deux passages que nous avons l'intention de lire ce matin, l'un d'eux se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 7, en commençant au verset 10 jusqu'au verset 18. L'autre passage se trouve dans Actes 7, 49. Et si vous voulez noter le sujet de ceci, ou le sujet qui sera tiré de ceci, dans Jérémie 7, c'est le verset 18. Je veux commencer à lire à partir du verset 10. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, dont je vous ai parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, je vous ai appelé, et que vous n'avez pas répondu. Je traiterai cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que je donne à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de ma face. J'aurai rejeté tous vos frères. J'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, ne paye pas en faveur de ce peuple, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux des supplications ni des prières. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? Bon, je veux marquer un arrêt avant de lire le dernier verset de ce passage. Laissez-moi donc relire cela. C'est Dieu qui réprimande ce peuple et qui dit « Ne prie même pas pour eux ». Alors, laissez-moi commencer au verset 16 et lire maintenant jusqu'au verset 18. Écoutez bien. « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple ». N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument des feux, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. est pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Maintenant, j'aimerais prendre le chapitre 7 du livre des Actes et commencer la lecture à partir du verset 44 jusqu'au verset 50. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'a ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué jusqu'au pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. Celui qui trouva grâce auprès de Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Vous pouvez donc voir, à la lecture de l'Écriture, ce sur quoi porte ma réflexion ce matin. C'est avant tout sur l'idolâtrie. Il y a peu d'écrits sur l'idolâtrie. Il n'y a pas beaucoup de livres qui expliquent l'idolâtrie, ce qu'est l'idolâtrie. Et pourtant, le monde en est rempli. Je pense que c'est parce qu'on n'a jamais vraiment expliqué cela aux gens, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. J'ai eu le privilège, un grand privilège dans ma vie, en voyageant, de voir de l'idolâtrie et de savoir ce que c'est. Et aussi, ces dernières semaines, alors que j'étudiais l'idolâtrie, la mythologie grecque et la mythologie romaine. J'ai pu retourner en arrière pour voir s'ils pratiquent la même chose, pour voir si l'idolâtrie existe comme c'était le cas au début. Aujourd'hui, quand je voyage, je vois l'idolâtrie. Et quand je vois comment cela avait commencé, en lisant comment cela avait commencé, dans les temps anciens, je vois que cela n'a pas changé. Or, je suis allé en Inde. L'Inde est remplie d'idolâtrie. Là-bas, il y a des gens qui marchent sur le feu et divers. Je crois qu'en après-midi, à mon arrivée à Bombay, j'avais été reçu ce même après-midi par, quelqu'un m'avait dit, je ne saurais dire qui était qui. Ils étaient dans le temple des Jains. Et il y avait là, soit 17 ou 7 religions différentes. Et je suis pas mal sûr que c'était 17 religions différentes qui m'avaient rencontré là pour me lancer un défi sur la parole. Et chacune d'entre elles était fermement opposé à Christ, 17 religions différentes. Et ils étaient, on nous a fait enlever nos chaussures avant d'entrer dans le temple, et on nous a fait asseoir sur des coussins. Ça nous prendrait du temps pour vous raconter tout ce cirque, comme je l'appelle, ce que nous devions subir. Mais le maire de la ville, qui nous y avait amenés, était lui-même un hindou, c'est-à-dire un mahométan. Mahomet était un prophète issu de la lignée d'Ismaël, qui était lui aussi un fils d'Abraham. Et c'est de cette lignée qu'est cet homme devant qui ce célèbre évangéliste mondialement connu s'est défilé lorsqu'il était confronté au sujet de la parole. Et à mon avis, l'évangéliste aurait dû dire: « Moi, je n'ai pas de don de guérison, mais il y en a qui l'ont dans notre groupe de croyants. Donnez-moi quelques heures et j'amènerai quelqu'un ici. » Voyez ? Mais bien sûr, si cet évangéliste l'avait fait, il se serait mis à dos les organisations qui le soutenaient et on l'aurait mis à la porte. Et puis, en y réfléchissant bien, Je ne crois pas que j'aurais laissé cet incroyant triompher de la parole de Dieu. Si on m'avait vaincu, je me serais quand même tenu là pour montrer ma foi en Dieu et ma conviction qu'il demeure le même. Comme les enfants hébreux ont dit, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais toutefois, nous ne nous prosternerons pas devant vos idoles. Oui, je crois que cela aurait été plus noble. Et puis aussi, lui, qui est un docteur en théologie et qui est bien versé dans les Écritures, comme le grand évangéliste qu'il est et l'homme puissant qu'il est, je crois que je l'aurais défié de m'affronter sur la parole, à savoir si, oui ou non, Jésus était le Christ, ou si c'est Mahomet qui était le prophète, et je le lui aurais prouvé par sa propre Bible. Si cela avait été mon appel dans la Bible, comme c'est le cas pour l'évangéliste de l'expliquer, j'aurais pris cette position au lieu de m'enfuir et de faire marche arrière. Cela ne montre pas ce vrai courage du chrétien qui se tient là, à la vie, à la mort. Dieu est capable de délivrer. Je crois que j'aurais relevé le défi. Mais ils ont oublié ce qui s'est passé à Bombay, quand cet homme aveugle-là, les Mahométans, avaient recouvré la vue ce soir-là, à la réunion. Ça, ils n'en parlent pas. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là ne sont pas des hypocrites. Ce sont des gens sincères, aussi sincères que vous et moi, et parfois même plus que nous ici en Amérique. Ce ne sont pas des hypocrites. Ils y croient vraiment et le pratiquent de tout leur être. Laissez-moi vous parler un peu de l'idolâtrie. J'ai oublié comment s'appelle le Dieu qui est le Dieu de ceux qui marchent sur le feu. Mais c'est une immense statue avec un gros, quelque chose qui ressemble à un visage humain, une sorte de visage de camé, qui a d'énormes, de grandes oreilles pour écouter tous leurs péchés et tout, et des boucles d'oreilles faites de très gros rubis à leur, là, à ses oreilles, et chacun d'eux coûterait probablement un demi-million de dollars. C'est peut-être surestimé, ou peut-être sous-estimé. Mais oh, il y a des bijoux vraiment hors de prix sur cette idole. Le prêtre du temple amène le pauvre fermier, il n'a pas besoin d'être, c'est juste un homme ordinaire. Il n'a pas besoin d'être quelqu'un de spécial. Ce n'est qu'un homme ordinaire, un fermier qui veut rendre grâce à son Dieu pour avoir obtenu une bonne récolte. Ce faisant, il montre sa foi en Dieu alors qu'il se rend au temple et son prêtre le bénit. Et ensuite, il se prépare à marcher sur un lit de charbon de plusieurs mètres de profondeur et de largeur qui ont été attisés avec des éventails jusqu'à ce qu'il soit chauffé à blanc. Là, je n'exagère pas, c'est la vérité. Il se présente devant l'idole, confesse ses péchés à ce prêtre et on verse de l'eau sur lui, de l'eau bénite et tout, que le prêtre a béni. Et souvent, ils prennent un gros hameçon, un hameçon pour poisson. C'est très gros, peut-être 1 à 2 centimètres de diamètre, en partant de la pointe jusqu'à la tige à l'arrière de l'hameçon. Et ils y accrochent une petite boule remplie d'eau, comme une petite décoration de sapin de Noël. Une petite boule, et ils la remplissent d'eau pour l'alourdir. Et ils en prennent littéralement des milliers qu'ils accrochent dans leur chair en les tirant. Au fur et à mesure qu'on les accroche dans leur chair, on tire dessus pour les soumettre à la torture afin de plaire à leur Dieu, leur idole. Ce ne sont pas des hypocrites. Puis, souvent, ils tirent la langue et on y fait pénétrer une petite lance fourchue qui traverse leur langue et monte jusqu'à leur nez pour les maintenir ensemble. Avec du fil, on fait des points, on leur coud la bouche s'ils, pour avoir dit des faussetés. Quelle torture! Ensuite, ils s'assoient près de ce grand lit de feu. Ils tuent un bouc pour apaiser l'idole, en l'offrant comme victime pour leurs péchés. Et vous devriez entendre le vacarme quand ce bouc est mis à mort. Ils confessent leurs péchés en les déposant sur ce bouc, le tuent et jettent-le, se servent du sang comme expiation. Et si cette personne qui marche sur le feu prend peur et traverse ce feu au pas de course, il met l'opprobre sur lui. Or, il doit marcher lentement et calmement d'un bout à l'autre de ces charbons ardents. Et parfois, ces charbons ardents, il y en a une profondeur de 4,5 mètres. Et peut-être 4,5 mètres, peut-être 4,5 mètres de profondeur, et peut-être sur une longueur de 30 ou 40 mètres et environ. Oh, peut-être sur une largeur de 2,5 mètres ou 3 mètres. Et ils sont chauffés à blanc. Et ils ne portent rien d'autre qu'un morceau d'étoffe, c'est-à-dire une sorte de pagne roulée autour de la taille. Il se présente là avec toutes ces choses accrochées sur lui. Il saigne, ses hameçons et toutes ces choses sont accrochées partout sur son corps. Il s'emballe avec tant de frénésie que de la bave blanche coule de sa bouche. Et voici qu'il s'avance. Il marche en traversant ce feu, marche d'un bout à l'autre et sort tout à fait indemne de ce feu. Et peut-être que ses pieds s'enfoncent jusqu'ici, ses jambes dans le feu, à 60 cm ou plus pendant qu'il marche. Et ses charbons brûlants se soulèvent et touchent sa chair humaine. Alors qu'il traverse ce feu en marchant, il sort de l'autre côté indemne. Vous pourriez regarder ses pieds, vous ne verriez ni égratignure, ni brûlure. Et en regardant cela, je me suis dit, si un sacrifice offert à une idole païenne par le biais du sang d'un bouc, en ayant foi en cela, est capable de préserver les païens du feu, que fera le sang de Jésus-Christ pour quelqu'un qui croit à un Dieu vivant? Eh bien, l'idolâtrie est une chose étrange. Cela a existé tout au long des âges, depuis que le, j'imagine, depuis le commencement du temps. Bon, le rituel de ce culte des idoles, c'est que l'homme installe l'idole. Il dresse l'idole, puis il entre là et se prépare pour cette grande adoration. Là, il croit que cette idole est faite à l'image d'un Dieu que jamais qu'il n'a jamais vu. Un Dieu qui n'a pas de forme. Et il croit donc qu'il est à l'image de cette idole qu'il a faite, à l'image de ce Dieu. Eh bien, retenez bien ceci. Cette statue est à l'image du Dieu mythique qu'il croit qui existe. Puis il va se prosterner devant cette idole et il croit que ce Dieu, qui est une personne invisible, descend dans cette idole. Et il croit qu'il parle à Dieu au moyen de cette idole, que Dieu entre dans cette idole et lui répond. Et beaucoup d'entre vous, les docteurs ici, qui ont étudié la mythologie, on prétend même qu'en ce temps-là, ces dieux se livraient des batailles entre eux et tout. Là, autrement dit, ce dieu-là s'hypnotise et de son état surnaturel, il entre dans cette idole et répond à l'adorateur à travers cette idole. Et l'adorateur, obnubilé par une sorte de transport émotionnel, croit que l'idole lui parle dans son cœur et que ses péchés lui sont pardonnés, et quoi encore, à travers cette idole, ce qui montre clairement que c'est le diable. C'est le diable qui fait cela. Et ils ne font pas les choses au hasard. Certains d'entre eux le font, mais il y en a qui sont de véritables adorateurs de ces choses. Je pourrais, par exemple, vous raconter des histoires sur la manière dont ces démons, dans ces idoles, font toutes sortes de choses. Ils font sortir du sang des objets et tout le reste. Ce sont des démons. Et si vous ne croyez pas en que le diable existe vraiment, vous ne croyez pas non plus que Dieu existe. Certainement, vous devez croire que le contraire existe, le pour et le contre. Donc, le diable existe bel et bien, et c'est une personne, pas une pensée, c'est une personne. Bon, il y en a qui enseignent que le diable, c'est simplement une mauvaise pensée que vous avez. Non, non, ce n'est pas ça. Le diable est une personne. Ces mêmes gens croient que le Saint-Esprit, c'est simplement une bonne pensée que vous avez. Mais ne croyez pas ça. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Christ sous la forme de l'Esprit. Alors, ces idolâtres, vous avez préparé vos Écritures, ou plutôt les passages des Écritures. Je vais peut-être me référer à certains d'entre eux dans quelques instants. Les passages des Écritures, nous en lirons peut-être quelques-uns. Alors, ces idolâtres, lorsqu'ils se prosternent devant leur idole, ils croient que ce Dieu qu'ils adorent est représenté dans cette idole. Bon, avez-vous saisi cela? Que l'adorateur n'est pas un hypocrite? Il entre vraiment en contact avec quelque chose qui est dans cette idole, parce que cela vient ensuite sur lui. Il fait quelque chose. Il obtient cela de cette idole, qui est un Dieu mythique, non pas un vrai Dieu. Très souvent, le diable s'introduit dans ces choses. Et le diable s'introduit parfois dans les réunions et se fait passer pour Dieu. J'ai vu cela dans mon ministère. Maintenant, souvenez-vous, ceci n'est ce que nous faisons ce matin, c'est juste un enseignement. Et je veux que cette église, quand je pars du ministère ici, pour aller sur les champs de mission, je veux que vous restiez avec votre pasteur et que vous vous en teniez à l'enseignement qui vous est donné ici. Tenez-vous-en à cette parole. Ne vous en écartez surtout pas. Tenez-vous-en strictement à la parole, quoi qu'il advienne. Tenez-vous-en à cette parole. Voyez ? Alors, ce n'est pas parce que je m'absente, je ne suis qu'un des pasteurs ici. Frère Neville enseigne la même chose que moi. Alors, continuez de venir à l'église pour écouter la parole. Je ne sais pas où il me conduira. Ce matin, à table, j'ai dit à ma femme, « Il y a en moi quelque chose qui crie sans cesse depuis toutes ces années. Je vais découvrir ce que c'est. Eh bien, je ne sais pas où cela va me conduire, où cela ira, mais partout où il me conduira, je le suivrai. » Donc, l'idolâtrie existe encore aujourd'hui. Nous voyons, je vois des gens qui viennent à l'autel et s'appuient sur les paroles aveugles d'enseignants aveugles qui leur disent « Ouvrez votre esprit, oubliez tout, faites le vide dans votre pensée. Vous deviendrez un Élie, vous deviendrez ceci, cela ou autre chose. » Quel mensonge! Vous ne venez pas à Dieu. Ça, c'est ouvrir votre âme pour y laisser entrer toutes sortes d'esprits démoniaques. Ne faites pas ça. Souvenez-vous que le diable existe et qu'il imite Christ presque à la lettre. Il y a quelque temps, je lisais La vie de Saint Martin, où il était question d'un jeune homme qui était en fait un moine. Il disait que Dieu l'avait appelé à être l'un des prophètes d'autrefois. Écoutez-moi, je suis l'un des prophètes d'autrefois. Et l'école, bien sûr, Martin ne prêterait pas l'oreille à pareille chose. Donc, les gens ne le croyaient pas, parce que la vie de ce jeune homme ne cadrait pas avec cela. Finalement, il a dit, « Je vais vous prouver que je suis appelé à être un prophète d'autrefois. Je ne suis qu'un jeune homme, disait-il, mais j'ai un appel. » Voyez, les dons et les appels sont sans repentir. Voyez, les gens s'écartent de la parole, et quand on s'écarte de la parole, on entre dans n'importe quoi. Ce jeune homme a dit, « Ce soir, vers minuit, Dieu me donnera une robe blanche que je porterai pour me tenir au milieu de vous, afin de montrer que je suis un prophète d'autrefois. » Alors cette nuit-là, ils ont tous tendu l'oreille, ont chuchoté et sont entrés, et les gens se déplaçaient. Puis le jeune homme a reçu une robe blanche. Quand le visiteur est parti, ils sont allés examiner la robe. Elle était authentique, une vraie robe blanche. Elle avait l'air très bien. Mais le vieil évêque, il n'arrivait tout simplement pas à avaler ça. Ça ne sonnait pas juste, parce que ce n'était tout simplement pas scripturaire, une robe blanche. Et une fois qu'il a reçu, ils lui ont dit, « Mets cette robe et va te présenter devant Saint Martin, l'homme de Dieu. » Et il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas se présenter devant ce véritable prophète. Il ne voulait pas se présenter, mais on l'a forcé à le faire. Et quand ils se sont mis à l'y conduire, la robe a disparu. Elle est allée quelque part, et il ne savait pas où elle était allée. Voyez, quand on en arrive à une confrontation, si vous avez de l'or véritable, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si c'est de l'or véritable ou pas. Cela résistera à l'épreuve n'importe où. Et le véritable Esprit de Dieu résistera à l'épreuve parce qu'il est éprouvé par la parole de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. J'ai vu des gens devenir hystériques, de braves gens. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne veux pas que cette bande soit vendue. J'ai vu de braves gens, des pentecôtistes, des pasteurs qui ne comprenaient pas, des gens qui devenaient hystériques, qui tombaient en extase et tout, et qui faisaient des choses. Et cela les a finalement conduits dans des asiles de fous. Ils avaient ouvert leur cœur. C'étaient des personnes innocentes et des démons sont entrés en eux et se sont installés. Le diable existe réellement. Je lisais qu'un démon s'est présenté devant, je crois que c'était devant Irénée ou Martin, l'un ou l'autre. Certains des étudiants de la Bible sont plus versés dans ceci que moi. Il avait une couronne en or sur la tête. Il portait une robe blanche, des chaussures incrustées d'or. Et il a dit, « Je suis le Christ, confesse-moi. » Ce saint refusait de le faire. Ce vrai prophète de Dieu s'est tenu là. Il a attendu et on lui a dit deux ou trois fois, « Je suis le Christ, confesse-moi. » Il a dit, « Ce n'est pas comme ça que notre Christ se présentera. » C'est exact. Vous devez connaître la parole. Tenez-vous-en à la parole. Voyez, la grande bataille est proche. Bon, ça fait des années et des années que nous jouons à l'Église, mais l'heure est venue maintenant où Jambres et Jannès s'opposeront à Moïse, comme la Bible dit. Il y aura une bataille spirituelle, un conflit. Il y en aura qui iront tout simplement de l'avant. L'Église dénominationnelle ira tout simplement de l'avant dans la domination et continuera sur sa lancée. Mais je parle du véritable croyant qui arrive sur ce champ de bataille. Vous avez intérêt à avoir des connaissances solides et à savoir ce que vous faites. Sinon, vous pourriez facilement attraper un mauvais esprit sans le savoir. Si c'est contraire à la parole, ne croyez pas cela. Tenez-vous-en à la parole. L'idolâtrie existe depuis longtemps. Elle existe depuis longtemps ici, aux États-Unis. Et il y a des années, les Indiens Pueblo, en Arizona, pratiquaient le culte des idoles. Et ce qu'il en était, ils avaient un dieu de la pluie. Et ce dieu de la pluie était, ils avaient pris comme modèle une tortue bourbeuse et avaient fait une statue d'une tortue bourbeuse. Et ils l'avaient couverte de taches comme si elle sortait de la boue. Alors, ils se jetaient par terre devant cette tortue bourbeuse, puisqu'ils croyaient que le dieu de la pluie descendait dans la carapace de cette tortue bourbeuse et qu'il leur parlait par cette tortue bourbeuse. Parce qu'ils croyaient qu'elle vivait dans la boue et l'humidité et qu'elle était le dieu qui régnait là-dessus. Ils avaient un « c'est de la mythologie ». C'est juste un faux semblant pour faire croire que c'est vrai. Donc, ce faisant, ils adoraient des démons. Par le fait d'adorer une tortue bourbeuse, en se disant que c'était le dieu de la pluie, ils ont fait venir sur eux un esprit, certainement, parce qu'ils lui ont ouvert leur cœur. Mais c'était le mauvais esprit. Aujourd'hui, tant de gens ouvrent leur cœur à quelque chose de faux. Vous recevez bel et bien un esprit, mais très souvent, il contredit la parole. Disons, les jours des miracles sont passés, ceci ou cela n'existe pas. Souvenez-vous, ça, c'est un démon qui se camoufle derrière le christianisme. Que Dieu nous vienne en aide quand nous aborderons ceci sous peu, afin que vous voyez cela, voyez? Que c'est un mauvais esprit qui se camoufle derrière le christianisme. Mais ce n'est pas l'Esprit de Christ, parce que l'Esprit de Christ s'en tient toujours à la parole. Il ne peut pas renier sa propre parole. Eh bien, quand le christianisme est arrivé à Rome, il y avait Rome, dans la ville même de Rome, 400 temples païens à l'intérieur d'une muraille de 11 kilomètres. 400 temples païens qui étaient dédiés à des dieux et à des déesses. Des dieux et des déesses. Des femmes et des hommes. Des dieux. 400 dieux différents. Pensez-y. 400. Bon, C'est ce que Paul a trouvé quand il est arrivé à Rome. C'est ce qu'Aquilas et Priscille ont trouvé quand ils ont été mandatés après la Pentecôte et qu'ils ont établi une église à Rome. C'est ce qu'ils ont trouvé, le culte païen des idoles. Il y avait environ 2 millions de personnes à Rome, dans la Rome métropolitaine, c'est-à-dire les esclaves, les habitants des banlieues et tout, environ 2 millions de personnes. Mais la muraille qui entourait Rome faisait 11 kilomètres, et à l'intérieur de ces 11 kilomètres, juste au pied de la colline, il y avait 400 temples païens, dédiés à des dieux et à des déesses païens. Maintenant, j'aimerais parler juste un instant de quelque chose que j'ai tiré des récits historiques, et j'en ai un ici même avec moi. Les dispositions qu'ils prenaient pour rendre leur culte, quelles démarches suivaient-ils pour rendre leur culte? Quelles démarches suivent un païen pour rendre son culte? La première chose qu'il faisait, c'était d'aller au temple et rencontrer le prêtre païen. Là, il lui donnait une offrande de tant d'argent et aussi un sacrifice, un animal, pour apaiser le dieu auquel il allait s'adresser. Et parfois, dans un même temple, il y avait plusieurs sortes de dieux. Il y avait des dieux, des déesses et tout le reste, dans le même temple. Donc, le prêtre païen, il allait le rencontrer et lui donnait de l'argent. Et à son tour, le prêtre païen lui donnait une chandelle, juste une chandelle ordinaire. Et l'adorateur prenait cette chandelle, après avoir payé le prêtre, il prenait cette chandelle et se dirigeait vers l'autel du dieu auquel il voulait s'adresser. Et sur cet autel, il y avait du feu, là où on brûlait le sacrifice, au pied de la statue de ce grand temple de bronze ou de cette idole. Et il prenait ce temple, cette chandelle, et l'allumait à partir de l'autel de feu, du feu de l'autel de l'idole. Il allumait la chandelle, allait au pied de l'autel devant l'idole, et déposait cette chandelle. Ainsi, après avoir déposé la chandelle, je suppose que c'était pour que, parmi tous les autres dieux, ce dieu en particulier puisse savoir exactement dans laquelle des statues il était censé entrer, vous savez, pour venir parler à cette personne. Pourquoi une chandelle? Je ne sais pas. Mais il y déposait cette chandelle qu'il avait allumée avec les feux de l'autel. Puis il revenait dans la salle du tabernacle, et là, il se prosternait sur le sol. Et là, de toute son âme, de toute sa force, il priait, adressant sa prière à cette sorte de grand Dieu, un semblant de foi, un Dieu mythique. Il priait ce Dieu de descendre dans cette statue pour lui parler. On dit que l'un des empereurs pouvait si bien se prosterner devant la statue d'Apollos qu'il pouvait effectivement dire qu'il entendait des voix provenant du temple de l'idole qui lui répondait. Il se prosternait. Là-dessus, vous me demanderiez, frère Branham, entendait-il des voix? Je ne doute pas qu'il en ait entendu, mais c'était la voix d'un démon, un dieu dénommé Jupiter. Et tous ces autres dieux qu'ils avaient, ils n'ont jamais existé. Mais ils se prosternaient et restaient là à adorer ces dieux mystérieux dont ils ne savaient absolument rien, pendant que son esprit était dans l'idole qui était à son image. Selon eux, ils lui fabriquaient une statue et elle trouvait grâce à ses yeux. Puis ils faisaient une offrande. Une fois qu'il était emporté par l'émotion, il retournait devant l'idole et cette fois-ci, le prêtre païen lui apportait de la nourriture et des boissons. Et il déposait cela au pied de l'idole. Et puis, là je suis, c'est écrit ici sur cette page, je le lis directement, voyez. Il allait au pied de cette idole, prenait un peu de cette libation, la sirotait, grignotait un peu de nourriture, puis les répandait sur les pieds de l'idole. Que faisait-il? il prenait la communion avec les démons. Il communiait avec des démons, des dieux et des déesses. C'est juste un type figuratif du chrétien qui communie avec Christ lorsqu'il prend la communion. C'est ce que la première église ou les premiers pèlerins de l'Évangile qui sont allés à Rome ont trouvé, des gens qui s'adonnaient à ce genre de culte. Baal était le dieu le plus célèbre de tout cet âge, de toutes les idoles. C'était Baal, B-2-A-L. C'était le dieu soleil. Et il avait une femme, le dieu lune, la déesse Ishtar, I-S-H-T-A-R. Ishtar, ça se prononce aussi A-S-T-A-R-T-E, accent aigu. Astarté. Elle est gravée sur la pièce de monnaie romaine. On l'appelait la déesse de la lune, ou la reine du ciel, la mère des dieux, le dieu lune. Et le dieu soleil, c'était Baal. Eh bien, presque tous les païens adoraient le soleil. Même les Indiens faisaient la même chose lorsque nous sommes arrivés ici, lorsque nous avons découvert l'Amérique, lorsque l'Amérique a été fondée. Nous sommes venus, nos pères sont venus ici, et ils ont découvert qu'ils adoraient encore le soleil. En effet, ce faisant, ils adoraient. C'est comme ça qu'à Rome, on adorait les dieux et les déesses lorsque les chrétiens sont arrivés à Rome. Or, en voyageant, j'ai remarqué que l'idolâtrie n'a pas changé. Et le vrai christianisme n'a pas changé non plus. Tous les deux restent bien en place et le resteront jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. J'aimerais vous en parler un peu pour que vous vous fassiez une idée. Et si vous êtes spirituel, vous le saisirez certainement. Étant donné que Baal était le dieu soleil, eh bien les gâteaux qui étaient préparés, Jérémie dit ici, et nous en avons parlé il y a quelques instants, que les femmes avaient préparé des gâteaux à Baal, le dieu soleil. En effet, vous voyez par la suite que plus loin dans le chapitre, si vous le lisez, ils disent « Si nous n'adorons pas Baal, nos récoltes seront mauvaises, parce que Baal est le dieu de la fertilité. » Autrement dit, nous savons que c'est le soleil qui fait pousser les récoltes. Mais le prophète leur a dit « C'est parce que vous avez abandonné Dieu que vos récoltes ne poussent pas. » Mais ils adoraient Baal. Ils ont dit qu'ils l'adoreraient et lui présenteraient des offrandes. Maintenant, si Baal est un dieu qui a une forme ronde, là, saisissez ceci, mot à mot, et vous comprendrez le reste, la fin de ce message. Ce dieu était un dieu qui avait une forme ronde, le dieu soleil. Ils avaient conçu de très grandes plaques d'airain qui réfléchissaient le soleil, et cela avait l'aspect du feu. Aussi le pain dont parle Jérémie ici, il est dit que les femmes préparaient ces gâteaux à Baal, et qu'ils avaient une forme ronde, comme le soleil. Eh bien, par la suite, on les déposait sur l'autel païen, pour la communion. Et on leur donnait une forme ronde, comme le soleil ou comme la lune, parce qu'il s'agissait du dieu soleil ou du dieu lune. Ce Baal était, comme nous l'avons dit, c'est le dieu de la fertilité. C'est lui qui fait tout pousser. Alors, l'Église primitive a été confrontée à ceci lorsqu'elle est arrivée à Rome. Et voici ce que dit et croit l'Église romaine, ou l'Église d'aujourd'hui, ou l'Église catholique romaine, que l'on appelle catholique. Nous sommes tous catholiques. C'est nous qui sommes l'Église catholique. C'est nous qui sommes l'Église catholique apostolique. Le mot catholique signifie universel. Et nous sommes l'Église universelle de la foi apostolique. Oui, monsieur, il y a une différence entre ces deux églises. L'une d'elles était l'Église catholique universelle, apostolique, et l'autre était l'Église catholique romaine. Et on dit que Pierre, ou plutôt, c'est ce qu'il croit, que c'est Pierre qui a fondé l'Église romaine. Je veux voir l'Écriture, je veux qu'on me donne le passage qui permet de dire que Pierre a un jour été à Rome, sous quelque prétexte que ce soit. Selon les affirmations de l'Église romaine, il y était de l'an 41 à l'an 46. Or, c'est exactement à cette période que Claude était empereur à Rome, celui qui a poussé tous les Juifs à partir. Lisez Actes, chapitre 18, et vous verrez que Paul, lorsqu'il s'est rendu à Éphèse, il y a trouvé Aquilas et Priscille. C'étaient en fait des Juifs qui faisaient partie de ceux qui avaient été expulsés lors de la persécution. Et ils étaient retournés là, en Palestine, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs, chrétiens et orthodoxes, de partir. C'est Aquilas et Priscille qui ont fondé l'Église à Rome, et ils ont dû partir en raison de la campagne menée par Claude, afin d'expulser toute l'Église, ou les chrétiens et tous les Juifs de Rome. Bon, Pierre, qui était l'évêque de l'Église, je peux vous montrer par l'Écriture, et même sur une période de près de 70 ans, que Pierre n'a jamais quitté la Palestine. Là même, dans l'Écriture. Et vous prétendez que Pierre a été assassiné à Rome et que Paul a été décapité à Rome. C'est un dogme. J'ai lu tous les martyrologes que j'ai pu trouver, et nulle part il n'est mentionné que Pierre ou Paul, l'un ou l'autre, auraient été tués à Rome. De tous les premiers martyrologes authentiques que nous pouvons lire, aucun ne dit quoi que ce soit à ce sujet. Il n'y a jamais été. C'est un dogme. Je suis ici pour mettre à nu le paganisme. C'est donc ce que nous allons faire avec l'aide du Seigneur et de sa parole. Voyez, simplement vous montrer comment est l'Église. Vous poussez les hauts cris contre les catholiques. Mais attendez juste un instant. Bon, là, nous voyons qu'après qu'Aquilas et Priscille, d'après les Écritures, ont été expulsés de Rome, la petite Église s'est retrouvée orpheline. Tous ceux qui s'y trouvaient étaient des païens convertis qui fréquentaient cette église chrétienne romaine. L'église du début qu'Aquilas, Priscille et un autre couple avaient fondée et nourrie. Puis nous voyons qu'aussitôt après leur départ, les gens ont établi leurs propres évêques et adopté leurs propres doctrines. Et qu'ensuite, ils ont adopté afin de trouver grâce auprès de l'empereur Constantin et de ses successeurs, afin de trouver grâce, puisqu'il leur fallait des membres qui leur permettraient de maintenir leur position à l'échelon politique du pays. Ils ont admis des membres dans l'Église et les ont acceptés sur une parfaite, simple confession. Alors qu'ils ne connaissaient pas plus Dieu que certaines personnes que nous avons en Amérique aujourd'hui, simplement comme confession de foi, ce qui représentait tout un effort pour eux de professer Christ, un Dieu autre que leur propre Dieu. C'est ainsi qu'ils ont adopté, dans la constitution de leur Église, des cérémonies païennes. Bon, les prêtres romains, alors, ils ont adopté ceci. Pour prendre et préparer la communion, le premier point qui a été apporté, c'est la préparation de la communion. Au lieu d'un morceau brisé, comme le corps de Christ, ils allaient le faire d'une forme ronde, comme le soleil ou comme la lune. Et jusqu'à ce jour, ça a toujours une forme ronde, certainement. C'est encore une hostie ronde et non un morceau brisé de son corps. C'est rond et lisse. Aujourd'hui, les prêtres romains déposent cette hostie ronde sur l'autel et appellent cela le corps littéral de Christ. Maintenant, il y a un grand désaccord entre certains de ces grands épiscopaliens et tout, et l'Église catholique. Et c'est sur ce sujet, à savoir si c'est le corps littéral ou si cela représente le corps. L'Église catholique romaine dit que c'est le corps littéral, parce que c'était le corps littéral de Baal, le dieu soleil, qui se reflétait sur ce morceau d'airain, et ils lui ont donné une forme ronde. On ne trouve du pain rond sur la table d'aucun chrétien. Et puis, il est question de se tourner vers l'Est, ainsi de suite, comme on le faisait dans le culte païen, et on y introduit des femmes et tout, comme cela a toujours été le cas chez les païens, et leur déesse et tout. Donc, ils ont simplement enlevé Astarté pour mettre Marie, dont ils ont fait la reine du ciel. Ils ont enlevé Jupiter pour mettre Pierre, et il leur fallait un dogme pour qu'ils puissent le faire. Il fallait... au retour d'Aquilas et de Priscille, après 13 ans de règne de Claude, quand ils sont revenus à ce moment-là, ils ont trouvé que leur église était complètement livrée à l'idolâtrie, mais qu'elle était devenue quelque chose d'énorme, de gigantesque. Pour pouvoir introduire toutes ces choses, il leur fallait absolument se débarrasser de la Bible. Eh bien, je suis Irlandais. J'ai ce qu'ils appellent les réalités de notre foi, qui n'est réservée qu'aux prêtres et tout. De mes entretiens avec des prêtres, je sais une chose. Un prêtre ne soutiendra pas ses arguments par la Bible. Pour lui, la Bible n'est qu'un livre parmi tant d'autres. En effet, il y a environ 2 ans, l'évêque Sheen, là, a dit « Toute personne qui essaie de croire la Bible est semblable à quelqu'un qui marche dans des eaux boueuses. » Ils ne croient pas cela. C'est là qu'ils ont commencé à dire « Dieu est dans son Église, pas dans sa parole ». Ce prêtre qui vient de là-bas, sur la rue, celui qui est venu récemment pour un entretien, de là-bas, de l'église du Sacré-Cœur, il m'a dit, ou de cette église qui est ici sur la rue, j'ai oublié comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Sacré-Cœur. Il est venu me voir au sujet du baptême de Marie-Élisabeth Frazier, qui avait rétrogradé et était devenue catholique. Il a dit, « L'avez-vous baptisé ?» J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Comment l'avez-vous baptisé ?» J'ai dit, « Du baptême chrétien. » Il a dit, « Vous voulez dire de quelle manière ?» J'ai dit, « Il n'y a qu'un seul baptême chrétien. » Il a dit, « Que voulez-vous dire ? Par immersion ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Donc, vous l'avez immergé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ?» J'ai dit, « Ça, ce n'est pas le baptême chrétien. » J'ai dit, « Le baptême chrétien, c'est par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Il l'a pris en note. Il a dit, « Serez-vous prêt à jurer sous serment ou que cette déclaration est vraie devant l'évêque ?» J'ai dit, « S'il ne peut pas me croire sur parole, qu'il s'en passe. » J'ai dit, « Je ne jure par rien, voyez ?» Et il a dit, et j'ai dit, « Ce n'est pas pour être arrogant, monsieur, mais je sais que la Bible dit, « Ne jurez ni par les cieux, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, et ainsi de suite. Nous ne devons pas le faire. » Il a dit, « C'est étrange. Autrefois, l'Église catholique baptisait comme ça. » J'ai dit, « Quand ? Quand ?» Voyez ? Mais ils disent qu'ils le faisaient. Car, pour tout dire, ils étaient et nous étions tous un au départ. Et son origine se trouve à la Pentecôte. C'est là le point de départ de la première Église, dont n'importe qui peut parler, n'importe où. L'Église chrétienne a commencé à la Pentecôte, par une expérience pentecôtiste, avec des pentecôtistes et le baptême pentecôtiste. Nous sommes tous issus de l'Église originelle de la Pentecôte. Maintenant, remarquez, nous voyons donc qu'ils ont dû s'éloigner de ce qu'enseigne la Bible afin de pouvoir introduire ces choses pour plaire aux empereurs et tout, et y admettre des païens. Maintenant, regardez, Pierre était juif, pas vrai? Pouvez-vous imaginer que Saint-Pierre puisse approuver l'idée d'ériger des idoles dans une église? Un juif à qui il était strictement interdit de poser le regard sur une idole? Pouvez-vous l'imaginer en train de faire une chose pareille? Pas Pierre. Pouvez-vous l'imaginer en train de dire « Tout ce que j'ai écrit au début était totalement faux. Je vais jeter tout cela. Je vais vivre en tant qu'esprit dans cette église romaine. Et je vais adopter. » Eh bien, ce serait un homme changé. Par conséquent, pour faire cela, il leur fallait introduire un dogme selon lequel Pierre a été enterré dans l'église. Et il leur a confié toutes les ordonnances. Et ce sont eux qui sont l'église catholique originelle. Ils ne le sont pas. Il n'y a aucun passage de l'Écriture. Il n'y a rien dans l'histoire, ni rien d'autre pour le prouver. Rien du tout. Ils ne l'étaient pas. Et le prêtre païen de la première église romaine est exactement comme celui d'aujourd'hui. Ils croient que ce pain-là, c'est le corps de Christ. Que, d'une manière ou d'une autre, Christ descend et saute dans ce morceau de pain posé sur l'autel, ce que les souris emporteront pendant la nuit. Voyez, ils croient. C'est pour ça que les catholiques croient qu'on doit aller à l'église pour adorer. Parce que Dieu est dans cette église. C'est pour ça qu'ils s'inclinent et font le signe de croix dans l'église. Parce que, pour eux, ce morceau de pain, c'est Dieu. Ce n'est rien d'autre qu'une représentation d'un Dieu soleil, Baal. Il n'y a aucun passage de l'Écriture pour soutenir cela. Rien du tout. Oui, cette hostie ronde qui est là sur l'autel. Ainsi donc, ils n'ont pas accepté l'enseignement chrétien qu'Irénée, Polycarpe et les premiers frères, Paul. Nous voyons que le disciple le plus âgé était, qui a vécu le plus longtemps, c'était Jean. Il avait été exilé sur l'île de Patmos pendant 3 ans parce qu'il avait une école. Il répondait ou consolidait la parole de Dieu. Il assemblait tout ça. Il regroupait les épîtres. Quand on les avait trouvés, ces érudits et lui, en train de le faire, on l'avait excommunié pour une durée de 3 ans. Il était ramené après la mort de l'empereur. Et c'est alors qu'il avait écrit le livre de l'Apocalypse. Et on parle de Dieu dans son Église ou Dieu dans sa parole. La Bible dit que la parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Qui plus est, quel que soit l'enseignement d'une Église, qu'elle soit baptiste, presbytérienne, méthodiste, pentecôtiste, ou quelle qu'elle soit, si cela ne correspond pas à cette Bible, à la lettre, c'est faux. En effet, Jean a dit que lorsque le Saint-Esprit ou Christ lui a parlé sur l'île de Patmos, il a dit ceci, « Quiconque en retranche quoi que ce soit ou y ajoute quoi que ce soit. » Alors, comment allez-vous ajouter ces symboles païens du culte des idoles qui prennent un Dieu et en font trois? Et toutes ces autres choses païennes que l'Église primitive n'a jamais enseignées et auxquelles elle était opposée. Au Concile de Nicée, lors de ce grand débat, il était question de savoir s'il était trois entités ou une seule. Ces martyrs sont arrivés là-bas, certains d'entre eux avec un homme, l'évêque, l'un des prédicateurs pentecôtistes, s'est vu marqué au fer rouge, partout, sur les bras, et les bras ramenés vers l'arrière, comme ceci, pour avoir imposé les mains aux malades. D'autres, à qui on a arraché les yeux avec une épée, se tenaient là. Ils formaient un groupe de martyrs qui avaient pris position pour cette parole. Alléluia! Ils ont mêlé leur sang à celui des prophètes d'autrefois. Cette parole, frère, c'est la parole de Dieu. Quand ces païens se sont convertis, ils ont introduit ces symboles dans le christianisme. Ils ne peuvent plus utiliser la Bible, parce que la Bible met cela à nu. Et ils vous diront aujourd'hui encore qu'ils n'ont pas, qu'ils ne croient pas cela. Ils disent, c'est en ordre, mais c'est l'Église qui a le dernier mot. Eh bien, nous voyons la même chose chez les pentecôtistes. Ne poussez pas les hauts cris contre les catholiques. Alors que nous sommes tout aussi coupables, les méthodistes, les baptistes, tous, sans exception. Vous, les méthodistes, tellement saints, pourquoi alors avez-vous tué Joseph Smith? Ici, c'est l'Amérique, et nous avons le droit d'adorer. Je ne crois pas ce que Joseph Smith a dit, mais vous n'aviez pas le droit de le tuer. C'est vrai, les mormons. Vous, les baptistes, combien de choses avez-vous cachées? Et le reste d'entre vous, et les pentecôtistes, tout aussi coupable que tous les autres. Vous êtes devenus de grands prétentieux et remplis d'hypocrisie. Et au lieu d'avoir l'humilité et la puissance de l'esprit, vous avez la parole sans l'esprit. Et vous faites plus de mal que vous le feriez si vous étiez comme les autres. Vous êtes revenus à leurs cérémonies païennes, empreintes de toutes sortes d'idées trinitaires et toutes ces autres choses. Vous ne pouvez pas prouver ces choses par la parole. La parole dit le contraire. Comme c'est pitoyable! Comme c'est pitoyable! Alors, quand ils ont formé la première église de Rome, le christianisme, il a fallu qu'ils rejettent la Bible. Et pour pouvoir adopter ces cérémonies, il fallait qu'ils aient une sorte de fondement. Aussi ont-ils dit que Pierre était le premier pape de Rome. Et il l'est toujours, selon eux. Eh bien, disons qu'il l'était. Pierre pourrait-il se rétracter par rapport aux paroles de la Pentecôte? Pouvez-vous imaginer un juif ériger des idoles? Alors que je peux vous prouver par la parole écrite dans la Bible, en vous précisant les jours et les années, que Pierre n'a jamais quitté la Palestine, sauf une fois où il est allé près de l'Euphrate, à Babylone. Il n'a jamais été à Rome, selon les Écritures. Ainsi dit le Seigneur. Tout ça, c'est une idée païenne. Maintenant, nous allons faire ressortir ça dans le protestantisme. Regardez les pentecôtistes qui ne prennent pas la parole. Si vous vous en tenez à ces paroles, vous êtes toujours dans le vrai. Si vous vous écartez de cette parole, vous serez ballotté n'importe où. Tenez, il n'y a pas longtemps, lors d'une glorieuse réunion dans une grande école pentecôtiste, une femme s'est levée d'un bond et s'est mise à parler en langue et a interrompu l'appel à l'autel. Et ce soir-là, quand je suis revenu, Billy m'a retrouvé dehors. Il a dit, « Tu sais quoi ? Cette femme a dit qu'elle avait un autre message qu'elle allait donner ce soir. » Et j'ai regardé la femme, les cheveux coupés, une robe si serrée qu'on aurait dit qu'elle avait été moulée dedans, assise là, à ranger ses cheveux et à remonter ses bas. Je savais qu'elle allait se lever d'un bond. Puis, elle s'est levée d'un bond et j'ai dit « Asseyez-vous !» Elle a quand même continué. J'ai dit « M'entendez-vous ? Asseyez-vous !» Oh là là ! Quand je suis sorti ce soir-là, 4 ou 5 de ces hommes m'ont abordé à l'extérieur avec elle. Ils m'ont dit, « Vous avez attristé l'esprit. » J'ai dit, « Tout esprit que j'attriste par la parole de Dieu devrait être attristé. » J'ai dit, « La Bible ne dit-elle pas que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ? Si elle rend un témoignage, ce qu'est est une prophétie. Le parler en langue est une prophétie s'il est interprété. » J'ai dit, « Qu'elle attende donc jusqu'à ce que moi j'ai terminé. » Et là, elle peut le faire. Il a dit, « Mais vous étiez en train d'enseigner la parole. » J'ai dit, « C'est là-dessus que je me tiens. » Il a dit, « Elle avait quelque chose de frais, nouvellement venu du ciel. Autre chose que ça, si ce n'est pas là, le retour au catholicisme romain. Je ne sais pas ce que c'est. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que tout esprit soit reconnu pour mensonge et que la parole de Dieu soit reconnue pour vérité. La parole de Dieu passe avant tout. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont tellement de révélations et de faussetés. Ils se prosternent là-bas et ouvrent leur cœur à des démons au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. C'est là le problème. Voilà ce qui ne va pas. Des gens honnêtes, sincères, de braves gens, mais on ne peut rien leur dire. Eh bien, nous les pentecôtistes, nous croyons ceci. Nous les baptistes, nous croyons ceci. Je crois ceci parce que c'est la parole de Dieu. Je défie quiconque de me corriger sur cela. Voyez, c'est vrai. Ceci, c'est la parole. Tenez-vous-en à ceci. Ceci est vrai. Ils ont donc formé la première église. La première église catholique romaine. Et au lieu de l'appeler l'évêque, comme on l'avait toujours fait, là, on l'appelle père. Ils le font encore. Et ici, on dit, vous devez l'admettre, que l'hostie, c'est le corps de Christ. Et dans ce sens, le prêtre est un dieu, parce que Dieu est tenu d'écouter la voix du prêtre. Qui transforme cette hostie en corps littéral de Christ. Et des hommes intelligents acceptent de gober ça. Oh là là! Oh, comme! Mais les vrais adorateurs, les vrais évêques, s'en sont tenus à la parole. Ils s'en sont tenus à cela là-bas, au concile de Nicée. Ils se sont tenus à cette parole là-bas. Oui, monsieur. Ils sont venus comme des martyrs et tout le reste. Mais ils s'en sont tenus à la parole. Ils n'ont pas voulu d'idolâtrie du tout. Et je veux que quelqu'un me montre où Saint Patrick a un jour été un catholique romain. Une telle chose n'existe pas. Il a protesté contre l'Église romaine. Il était le neveu de Saint Martin. Je lisais ici dans une femme qui a écrit un Hazeltine, Madame Hazeltine, extrait du Concile de Nicée. Elle a dit qu'elle est allée au service des cartes à Oxford pour obtenir la carte afin d'emprunter la vie de Saint Martin. Et le préposé a dit, mais il n'a pas été canonisé par l'Église romaine. Certainement pas. Il a protesté contre elle. Et Saint Patrick a fait la même chose. Les hommes qui s'en sont tenus à la parole de Dieu ont construit leurs propres écoles. Ils se sont éloignés de ce genre de choses. Maintenant, nous voyons que c'est pareil aujourd'hui. L'Église romaine continue d'utiliser son pain de forme ronde. Elle croit que Christ descend et saute dans ce pain. Et écoutez, savez-vous que c'est le prêtre qui boit le vin? Alors qu'ils doivent passer cela de l'un à l'autre, il avait passé la coupe de l'un à l'autre, mais dans le culte païen, ce sont les prêtres qui boivent le vin. Voyez, on a encore tout ça, c'est païen. Tout à fait, ça leur est égal. Ils vous disent, je ne parlerai pas du tout de Bible avec vous. Ce ministre ou ce prêtre m'a parlé là-bas. Il a dit, Monsieur Branham, vous essayez de parler de la Bible, je parle de l'Église. J'ai dit, Dieu est la parole. C'est vrai. Bon, très bien. Nous voyons par là que c'est pour ça que jusqu'à ce jour, dans l'Église catholique romaine, on doit aller à l'Église pour adorer. On leur enseigne que Dieu est dans cette hostie ronde, l'hostie dans le tabernacle. Voyez ? Ne voyez-vous pas que c'est païen ? Certainement. Ne voyez-vous pas que les gens qui adoptent quoi que ce soit de contraire à cette parole, sont du même acabit ? Dans Apocalypse 17, la Bible n'appelle-t-elle pas l'Église catholique une prostituée ? N'appelle-t-elle pas les protestants la mère de... Quelle était la mère des impudiques ? C'est la même chose. Elle répond sa doctrine à partir de la coupe des souillures, de l'abomination de ses fornications. De la saleté et de la souillure, des choses faites de main d'homme, au lieu de la parole du Dieu vivant, qui est vraie et sans mélange. Ô Dieu, aie pitié de nous, c'est là ma prière. Irénée a dit, j'ai noté sa déclaration ici, il a dit, la parole de Dieu est comme un beau bouquet de beaux et grands joyaux mis ensemble. Pour fabriquer la statue d'un grand et puissant roi. Mais, a-t-il dit, les credos, les dogmes, les dénominations, ils prennent ces beaux joyaux et leur donnent la forme d'un chien et trompent ceux qui ne connaissent pas la parole. Ils le font pour corrompre les voies de Dieu et pour jeter l'opprobre sur la parole. Alléluia! Quand vous essayez de faire dire la parole de Dieu quelque chose qui cadre avec votre organisation, là, vous ôtez les joyaux du corps du grand roi pour en faire une chose à l'image d'un chien, d'un renard, d'un cochon ou de quelque chose de ce genre, et vous trompez ceux qui ne connaissent pas la parole. Alléluia! Il y en a qui ont l'Esprit de Dieu et qui prennent position pour la parole incarnée. Ô Dieu, fais grossir nos rangs. La parole, rien d'autre que la parole. Prenez cette parole où Jésus a dit, là, les cieux et la terre passeront, mais pas ma parole. Où il y est dit, baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils en ont fait trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils adoptent toutes sortes de dogmes et inventent toutes sortes de choses. Et ils aspergent au lieu d'immerger. Tout, ils en font une sorte de bourbier fait de main d'homme, au lieu de le mettre dans le joyau, dans Christ, le grand roi. Oh, alléluia! Là, c'est Dieu incarné, Christ. Ils corrompent les voies de Dieu. Ils admettent les gens dans l'église, les femmes aux cheveux coupés, maquillées, vêtues de robes scandaleuses. Des hommes tellement efféminés qu'ils laissent une femme les mener par le bout du nez. Ils viennent à l'église, jouent au loto et au bingo et font toutes sortes de choses corrompues. Les prédicateurs et tout le reste qui vont à la plage où des femmes vont se baigner à moitié nues en maillot de bain. Ils fument la cigarette et se disent serviteurs de Dieu, alors que ce temple est un temple saint consacré à Dieu, non pas aux souillures du monde. C'est vrai, mais ils ont pris les joyaux de Dieu et en ont fait un cochon, un renard, un chien, un putois ou quelque chose de ce genre. Puis, ils font avaler ça aux gens du peuple sans instruction. Merci, Doc. J'en avais un ici, mais je n'ai pas pensé à l'utiliser, un mouchoir. Oui, c'est ce qu'ils font. Irénée avait tellement, tellement raison. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Est-ce vraiment comme ils essaient de le dire? Oh, ça n'a pas d'importance pour lui. Si, c'est important pour lui. Cela a de l'importance. Sinon, pourquoi a-t-il dit à Jérémie ces choses qu'il lui a dites? Pourquoi a-t-il dit cela? C'est bel et bien important. Dieu a sa manière de faire. Qu'en serait-il si Moïse avait dit « Je vais ôter mon chapeau au lieu de mes souliers » Ils n'auraient jamais eu la vision. Vous devez venir selon la manière de Dieu. Dieu a sa manière de faire. Il y a tant de choses que nous pourrions dire. Prenons un passage de l'Écriture que j'ai noté ici. J'en ai noté beaucoup. Prenons Nombre 25. Juste un instant. Nombre 25. Nous verrons si c'est important pour Dieu ou pas. Voyons si c'est important. Si ses credos, ses dogmes et tout ont de l'importance. C'est un Dieu bon. Il ne tient simplement pas compte de tout cela. Non, il place un cordeau et prend un niveau. Et vous devez être parfaitement aligné avec cela. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Écoutez. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pas étonnant qu'il ait dit, « Ne prie pas pour de telles personnes. » Hein? L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux des siens qui se sont attachés à Baal-Péor. Tue-les tous. Dieu veut être Dieu. » Et s'il n'est pas le seul Dieu, il n'acceptera pas de jouer les seconds rôles. Il n'a pas à laisser Baal, un dogme fait de main d'homme, une quelconque théorie élaborée par un homme, ou une quelconque idée tirée d'un credo, ou l'opinion d'une dénomination, se mettre en travers de son chemin. Il est Dieu, et de ses pierres, il peut susciter des enfants à Abraham. Il n'a pas besoin de vos dénominations, il n'a pas besoin de vos grandes associations, de vos écoles et tout ça. Il prend ce qu'il peut avoir dans sa main, des choses qui ne sont rien. Il y insuffle le souffle de vie et ça devient quelque chose qui le servira. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Certainement, cela a de l'importance pour Dieu. Vous dites, ça n'a pas d'importance. Si, cela a de l'importance. Certainement, cela a de l'importance. Le pape Léon le Grand a régné de 440 à 461. Oh, il croyait qu'il faisait exactement ce qui était bien. Il est entré dans l'Église. Son prédécesseur, c'était Victor. Et lui aussi était un salopard. Il est arrivé là et il a mis les chrétiens à mort et tout le reste. Et qui a commencé tout ça à rendre cela un meurtre légal? Savez-vous qui c'était? Saint Augustin d'Hippone. C'est précisément lui qui l'a fait. D'après ce que l'histoire rapporte, une fois, Saint Augustin a eu l'occasion de devenir un grand homme et d'être rempli du Saint-Esprit. Là-bas, à Lyon, en France, il s'était assis au fond de la cour de cette grande école où Irénée avait enseigné et les autres, Saint Martin. Il s'est assis dans cette cour d'école et le Saint-Esprit est descendu sur lui, mais il a refusé de l'accepter. Et qu'est-il devenu par la suite? Un fils de la gêne, deux fois plus qu'il ne l'était au départ. Il s'est rendu à Hippone, en Afrique, et y a fondé son école. Et c'était « Montrez-le-moi !» Je peux vous le montrer dans l'histoire. C'est lui qui a prouvé par sa parole que c'est en ordre de tuer tout hérétique qui serait en désaccord avec les dogmes de l'Église romaine. Saint Augustin d'Hippone. Y a-t-il ici un spécialiste de la Bible ou quelqu'un qui a étudié l'histoire et qui sait que c'est vrai? Levez la main. Oui, voyez, certainement qu'il y en a. Saint Augustin d'Hippone. C'est lui qui avait rendu ce verdict, selon lequel c'est en ordre de tuer les hérétiques qui sont en désaccord avec l'Église romaine, approuvant ainsi ces doctrines païennes, soit de s'éloigner de la Bible et d'établir un culte du Dieu Soleil. Vous savez pourquoi le christianisme est... Vous savez d'où vient Noël? Christ est né en avril. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En ce moment, le système solaire ralentit au fur et à mesure que le soleil s'éloigne. Chaque jour devient un peu plus long ou un peu plus court, et encore plus court. Et du 20 au 25 décembre, c'est la période de l'anniversaire du Dieu Soleil. C'est une période d'environ 5 jours. Et c'est à ce moment-là que se tenait le cirque romain. Et on célébrait l'anniversaire du Dieu Soleil à ce moment-là. Et vous voyez ce que vous avez maintenant? Ils ont dit, faisons de cette fête du Dieu Soleil celle du Fils de Dieu. Et tout ça, c'est païen au départ. Et les femmes sont là dans les rues, avec leurs chaussures à talons hauts, à se trémousser ça et là dans la rue et à se ruer vers les magasins. Tenez, l'autre jour, ma femme me disait, quelqu'un a dit, je ne sais pas quoi offrir à papa. Cette personne a dit, mon frère va lui offrir un flacon de whisky. Et l'autre a dit qu'il allait lui offrir du champagne. Et un autre a dit, eh bien, je vais lui offrir un jeu de poker. La célébration de Noël, c'est païen, c'est le culte des démons. Très bien. Mais Augustin l'a prouvé. Si vous voulez les références, c'est donc Schmucker, les écrits de Schmucker, S-C-H-M-U-C-K-E-R, dans la glorieuse réforme de Schmucker. Il déclare ceci, une fois que saint Augustin d'Hippone a rendu ce jugement en faveur de l'Église catholique. Cela leur a donné les coups des franches pour tuer tous ceux qu'ils voulaient, tous ceux qui reniaient cette Église païenne, de l'époque de saint Augustin, soit environ 300 ans après Christ, jusqu'en 1850, où il y a eu le grand massacre de l'Irlande. 86 millions de protestants ont été tués par l'Église catholique. Ça, c'est ce que rapporte le martyrologe romain. 86 millions. Bon, prenez-vous-en à l'historien. C'est lui qui l'a dit. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le dogme catholique. Pas catholique. Le mot catholique, ils ne sont pas dignes de ce nom. Ce sont des païens romains. Je ne parle pas de ces précieuses personnes. Il y a des dizaines de milliers de ces personnes là-dehors qui sont tout aussi sincères que ces... Tout idolâtre l'est. Ils pensent qu'ils adorent Dieu, alors que, quand on se reporte à la parole, ce sont des idolâtres qui ont érigé des idoles partout. Voyez ? Très bien. C'était un dogme, des dogmes romains. Et là, écoutez, je veux faire une déclaration. J'allais laisser ça de côté. En l'an 1640, en l'an 1640, l'année où il y a eu le massacre de l'Irlande, sous les juristes et les prêtres romains, 100 000 convertis de Saint-Patrick ont été tués. Si Saint-Patrick était un catholique romain, alors pourquoi ont-ils tué leur propre peuple? C'était des ouvriers d'usine et tout, c'est vrai. Ce sont 100 000 personnes, selon le martyrologe, qu'ils ont mis à mort parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur enseignement. J'ai visité quelques églises de Saint-Patrick en Irlande du Nord. Oui, monsieur. J'ai eu le privilège de voir cela. Ce n'était qu'une grande salle sans apparat. Ils n'avaient pas d'idole dressée là, où on versait des choses sur leurs pieds, et on ne payait pas pour que les gens reviennent et entrent dans ces idoles. Marie, je vous salue. Marie, Mère de Dieu, comme ils ont fait avec Astarté, en sorcelant l'esprit de Marie. Il y a à peine 2 ou 3 ans, l'Église catholique a introduit un nouveau dogme selon lequel Marie était ressuscitée des morts, était montée au ciel. Combien s'en souviennent? Oh, vous tous, bien sûr. C'était partout dans les journaux. Des dogmes. C'est bâti sur des dogmes. Et il n'y a pas un brin de vérité nulle part. Maintenant, vous, les protestants, vous êtes aussi pourris que les autres, vous qui refusez de prendre la parole de Dieu. Il existe des dogmes dans l'Église protestante, tout comme il en existe dans l'Église catholique. Et nous sommes entièrement dans l'erreur, tant que nous ne revenons pas à la parole du Dieu vivant. C'est vrai, vous, les assemblées de Dieu, vous, de l'Église Four Square, vous, les unitaires pentecôtistes, les trinitaires, ou quoi que vous soyez, revenez à la parole de Dieu. Abandonnez ces idoles dénominationnelles là, ces sphinx dénominationnels. Ils s'ensorcellent eux-mêmes, l'esprit du diable, à travers ces idoles dénominationnelles. Le savez-vous? Une dénomination est une idole. Vous demandez, êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Ça revient au même que d'être un porc, ou un chien, ou une moufette. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est vrai. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de revenir à la parole de Dieu. Bon, revenons à ces ouvriers d'usine et à ces précieuses personnes d'Irlande du Nord, si Saint-Patrick, où toutes ces écoles se trouvaient. Vous savez, il ne s'appelait pas Patrick, il s'appelait Suka. Il avait été kidnappé lorsqu'il était un petit garçon et ses sœurs avaient été tuées. Et il est revenu parce qu'il dressait des chiens à chasser les cochons et tout. Alors il a fait cela, alors il a pu retrouver son chemin pour retourner à la maison vers son père et sa mère. Et il a fondé une école. Et cette école, qui était en Irlande du Nord, n'a jamais reconnu le pape comme vicaire suprême de Dieu. Ils n'y croyaient pas. Ils s'en sont tenus à la parole. Que Dieu bénisse ce saint béni, Saint Patrick, un grand homme. On entend dire que Saint Patrick a chassé tous les serpents d'Irlande. Lisez l'histoire et voyez ce qu'il en était. Saint Patrick croyait au parler en langue. Saint Patrick croyait qu'on pouvait saisir des serpents ou boire des breuvages mortels. Et comme il pouvait saisir les serpents et les jeter hors de son chemin, on a dit qu'il a chassé les serpents d'Irlande. C'était parce qu'il croyait dans le fait de saisir des serpents et que rien ne lui ferait de mal. Oui, oh, certainement. Il n'avait pas ces très grands temples. Et qu'est-ce qu'un saint? Que ferait Irénée aujourd'hui? Que ferait Saint Patrick aujourd'hui s'il voyait les centaines de milliards de dollars qui ont été investis dans le catholicisme romain pour construire de grandes églises et des statues $1 million et tout? Exactement comme le font les protestants. J'ai fait une déclaration l'autre jour et ça a déconcerté tout le monde. C'est la raison pour laquelle je retiens cette bande. Laissez-les aller. Si un aveugle conduit un aveugle, laissez-les tomber dans la fosse. C'est la seule chose à faire, voyez. Lorsque je leur ai parlé des appels à l'autel, qu'une telle chose n'existait nulle part dans la Bible, les appels à l'autel de sa sainteté, en nous humiliant devant sa mort, reconnaissant que nous ne sommes rien, c'est alors que le Saint-Esprit entre et nous élève. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes, car nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout faire. Nous, à son image, une image vivante d'un Dieu vivant. Qu'est-ce que vous, lorsque vous vous abandonnez à Dieu et que Dieu entre en vous, qu'est-ce que ça fait de vous? Une image vivante de Dieu, pas une statue morte placée dans un coin, pas une dénomination là-bas, au quartier général, à Washington, dans la Confédération des Églises. Ah non, ça, c'est une statue morte, et un credo mort. Mais une image vivante dans un individu. Quelqu'un enseignait l'autre jour où il avait une petite note et quelqu'un disait, si un homme était sauvé et que sa femme n'était pas sauvée, partirait-il dans l'enlèvement? La femme ne pourrait pas partir dans l'enlèvement. Une femme qui partirait dans l'enlèvement, ça n'existe pas, puisqu'ils sont un. C'est absurde, ça. Jésus a dit, de deux personnes qui seront dans un même lit, j'en prendrai une et je laisserai l'autre. C'est une affaire individuelle entre vous et Dieu, par l'abandon de votre corps. Que maman, papa, les enfants, ou qui que ce soit d'autre, le reçoivent ou pas. Amen. Oh Dieu, ce monde corrompu, sale et dégoûtant, ces églises sales et dégoûtantes, ces soi-disant églises, ces organisations sales et dégoûtantes, ces credos sales et dégoûtants, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Oh Dieu, suscite quelqu'un d'humble quelque part pour nettoyer tout ça, puis fais-les monter dans les lieux célestes et révèle-toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh, comme toutes ces choses sont devenues corrompues, nous sommes participants de sa sainteté. Nous, à son image, nous sommes des images vivantes d'un Dieu vivant, donc mort à nous-mêmes. Ressuscité avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole, faite chair de nouveau en nous. Oh, frère Neville, regardez, qu'est-ce que c'est? Pas un Dieu mythique, imaginaire, assis là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce que le Dieu vivant? La parole en vous, qui se rend réelle. Gloire à Dieu. Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que j'en suis un. Mais, oh, frère, voyez-vous cela? Un triomphe sur toutes les dénominations. Un triomphe sur tout le paganisme. Un Dieu vivant manifesté dans un temple vivant. Et la parole de Dieu, qui est Dieu, est faite chair en vous. Pourquoi? Vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous avez triomphé de tout en Jésus-Christ. Amen. Oh, j'aime vraiment ça. Je dois laisser quelque chose de côté et continuer. Maintenant, écoutez. Alors, le plus petit de ceux qui croient en lui, peu importe depuis combien de temps, ou qui, que vous soyez petit, ou quoi que vous soyez, le plus petit de ceux qui croient en lui, qui sont en lui, domine sur toute la puissance du mal. Voyez, regardez, Christ est la tête du corps. Pas vrai? Eh bien, partout où est la tête, le corps y est avec elle. Gloire! Partout où va ma tête, mon corps suit. Et là où est Jésus, l'Église y est avec lui. Amen. Il ne s'éloigne pas de sa parole. Il demeure dans sa parole. Il veille sur elle pour la manifester. Son Église est avec lui. Et écoutez, vous dites, « Mais frère Branham, je suis le plus petit. Ça, c'est la plante de ses pieds. Mais souvenez-vous, il a triomphé avec vous. Il a triomphé avec vous de tout, même si vous n'êtes que la plante de ses pieds. Toute maladie, tout démon, toute puissance, la mort elle-même, sont sous vos pieds, sous vous. Gloire! Je n'ai pas l'impression d'avoir 52 ans ce matin. C'est la vérité. Si seulement je peux amener cette Église à saisir cela, frère, nous serons une Église triomphante. Ceux qui croient en lui, tout mal lui est soumis. Oh, gloire! Je vais regarder cela un peu plus profondément. Je reprendrai ceci la prochaine fois. Écoutez, écoutez ceci. Vous dites, « Frère Branham, je n'ai pas de puissance. » Moi non plus, je n'ai aucune puissance. Eh bien, frère Branham, je suis un faiblard. Moi aussi, mais je ne compte pas sur ma force. Ce n'est pas de ma force qu'il s'agit. Je compte sur mon autorité, voyez, sur l'autorité qui m'a été donnée. Ce n'est pas moi qui suis fort. Je ne suis pas fort. C'est lui qui est fort. Et je suis à lui. Tenez, disons par exemple qu'il y a des voitures qui descendent la rue à l'intersection de la 4e rue et de la rue Broadway à Louisville. Zoom, 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 à toute vitesse dans cette rue, à 100 km à l'heure. Tout le monde est pressé, pris dans un tourbillon d'activité. Si un petit homme s'avance là, lève la main, et « Oh frère, les freins hurlent !» Eh bien, ce petit homme n'a pas assez de puissance pour arrêter une seule de ces voitures, mais il a l'autorité. Gloire! Il ne s'agit pas de sa puissance. Eh bien, si l'une de ces voitures le percutait, elle le mettrait en pièces. Mais qu'il lève simplement la main. Pourquoi? Les conducteurs de ces voitures reconnaissent cet uniforme. Oh, frère, ils reconnaissent cet uniforme et donnent un coup de frein. Pourquoi? Regardez son autorité. Regardez ce qu'il y a derrière lui. Tout le système de la ville est derrière lui. Les forces de l'ordre de la ville sont derrière lui. Voilà ce que cet uniforme représente. Il est différent. Oui, monsieur, parce qu'il est policier. Il crie, « Arrêtez !» Eh bien, que l'une de ses voitures passe, zoom, elle le frappe comme ça. Mais il ferait mieux de ne pas essayer ça. Regardez ce qu'il y a derrière lui. Ils vont faire grincer et hurler leurs freins. Il n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Il lui suffit de lever la main. Ça suffit, certainement. Son autorité vient des forces de l'ordre. Tout le système est derrière lui. Lui-même, il est faible. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière lui? C'est ce que c'est un signe. Sa tenue, il est revêtu d'un uniforme. C'est ce que, pas l'idole, mais ce dont l'individu devrait être revêtu. Revêtons-nous de l'armure complète de Dieu. Amen. Le casque du salut. Cet énorme bouclier de la taille d'une porte, de la foi. Oh, frère, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il représente. C'est ce que le policier, ce n'est pas ce petit homme qui se tient là, ce n'est qu'un homme ordinaire, mais c'est ce qu'il représente. Notre armure, c'est Jésus-Christ. Oui, monsieur. Tous les démons donnent un coup de frein quand ils voient cela. Quand ils voient cette armure complète de Dieu, le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'ils voient ça venant directement du trône de Dieu, revêtu de l'armure complète de sa résurrection. Amen. Ce n'est pas que vous soyez fort, vous n'êtes rien, mais c'est ce qu'il y a derrière vous. Pourquoi? Vous êtes mort, vous vous êtes engagé dans l'armée, vous vous êtes engagé dans la police. Vous allez faire respecter la loi et contrôler ces démons. C'est vrai, vous êtes dans la police. Tout le système est derrière vous. Voyez, vous êtes considéré comme mort. Vous n'êtes rien. Vous ne pourriez rien arrêter, mais l'autorité qui vous a été donnée parce que vous avez été élevé et vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le diable reconnaît cela. Tous donnent un coup de frein dès que ses mains se lèvent. Une fois, dans un tribunal Saint-Martin, il y avait là un homme qui lacérait les gens, un démon. Il les mordait et arrachait de gros morceaux comme ça. Et les gens fuyaient puisqu'il essayait de les tuer. Il arrachait de gros morceaux. Il avait de très grandes canines, des dents. Il arrachait de gros morceaux de chair comme ça, alors qu'il causait tout ce gâchis. Adorateur, les jours qu'il avait vus d'avance, il savait qu'il en serait ainsi, qu'il serait lui-même chassé de sa propre église, l'église de Laodicée. Il a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Ces organisations l'avaient chassé. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais il se tient à la porte pour frapper. Ô Dieu, puissent les membres de son corps se rendre compte aujourd'hui que nous sommes dans l'église triomphante. Nous sommes en Christ. Nous sommes assis au-dessus de toutes ces choses du monde. Pourquoi nos femmes voudraient-elles se couper les cheveux? Ô Dieu, ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi voudraient-elles s'exhiber, vêtues de ces choses sexy? Pourquoi les nôtres auraient-ils une faim dans leur cœur d'entendre un gars comme Elvis Presley ou un de ces Ricky et tout, qui se tient là avec une vieille guitare et joue cette vieille musique grinçante qui fait que nos jeunes filles se trémoussent, ôtent leurs sous-vêtements et tout? Ô Dieu, et ce garçon prétend être pentecôtiste. Ô Dieu, qu'est-ce? Regarde ce Pat Boone qui prétend être de l'Église de Christ et toutes ces choses vulgaires, sales. Ô Dieu, lui qui prétend être de l'Église de Christ. Ô Dieu, nous sommes conscients que l'insigne de l'autorité, ce n'est pas le nom d'une dénomination, mais bien la puissance de la résurrection de Christ dans la vie de chaque individu. Ô Dieu, puissent ces gens qui sont ici ce matin s'efforcer d'entrer dans cela. Et si jamais cette bande atteint les régions où les gens se trouvent, Seigneur, fais-leur savoir que ceci n'a pas été dit par méchanceté. Dans ce cas, j'aurais tort moi-même. Mais pour que l'Église puisse être triomphante et qu'elle prenne conscience de sa position, afin qu'ils voient où toutes ces idoles, où l'Église catholique en a clairement fait une idole, les protestants en font une organisation. Et c'est tout aussi mauvais. Ils renient la parole, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Ô Dieu, comme ta parole est vraie, chaque parole. Maintenant, nous te prions, ô Père, de nous pardonner nos péchés, et puisse ce message pénétrer profondément dans les cœurs, et puisse les gens, puisse cette église, alors que ce petit tabernacle est dans le processus de construction d'une église, puissent-ils ne jamais chercher à faire quelque chose de grandiose, mais simplement quelque chose d'assez grand pour abriter les gens. Ô Dieu, puissent-ils ne jamais chercher à dire, nous sommes membres de ce grand tabernacle qui a ce grand dôme. Ô Dieu, que ce ne soit qu'une coque vide, puissent-ils ne jamais perdre de vue le sujet, Jésus-Christ. Puisse-t-il être celui qui remplit leur temple. Et alors, la puissance et le feu du Saint-Esprit descendront se poser sur l'autel de leur cœur. C'est là que se trouve le véritable autel, Seigneur, dans le cœur de chaque individu. Je prie ce matin que cette parole pèse tant sur l'autel de chaque cœur qu'ils ne pourront jamais s'en éloigner, qu'ils viendront à l'Évangile en toute lucidité, saints d'esprit, et qu'ils croiront les paroles, et qu'ils n'ouvriront pas leur cœur aux puissances démoniaques, ou aux sensations, au fait de crier, de sauter, ou à une quelconque manifestation, quelque chose de physique, ou quelque chose de ce genre, mais à l'authentique et véritable Esprit de Christ, plein d'amour, où il se manifestera dans l'amour et la puissance. Accorde-le, Seigneur. Guéris les malades et les affligés. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. I love you.
just my salvation on Calvary.
Alors que nous avons la tête inclinée, combien vont poser leur cœur sur l'autel et en faire un chant pour Dieu, afin qu'il puisse semer sa parole sur l'autel de votre cœur et que cela produise la vie de la résurrection de Christ. Voulez-vous lever la main pour dire, « Ô Dieu, je le désire de tout mon cœur, que Dieu bénisse vos cœurs affamés. Il y en a des douzaines et des douzaines. Laissez-les, ne faites que les laisser là. Laissez vos fardeaux aux pieds de votre Sauveur. Si nous croyons sans défaillir, il saura nous secourir. Laissons nos fardeaux aux pieds de notre Sauveur. Là, dans votre cœur, souvenez-vous de Christ le Sauveur. Souvenez-vous qu'il est mort pour vous. Si vous mourrez simplement à vous-même, cela videra votre corps, videra votre âme, videra votre cœur de toutes les choses du monde et de tous ses plaisirs. Alors Christ, vous ressusciterez avec lui. Si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a ici un baptistère rempli d'eau. Et quand vous ressortez de cette eau, vous ressuscitez pour marcher avec Christ dans une nouvelle vie. Vous êtes mort à ce moment-là. Vous n'êtes plus le tempérament colérique et tout ont disparu. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Puis, il vous élève par le Saint-Esprit et vous fait asseoir dans les lieux célestes avec lui, loin au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Peu importe combien petit vous êtes, si vous êtes une petite lavandière, si vous n'êtes qu'un frère qui ne connaît pas son alphabet, qui vous êtes, ça ne change rien. Vous êtes en Christ et vous triomphez de tout et vous avez autorité sur chaque démon et sur toute la puissance du diable. Vous êtes en Christ, triomphant, alors que vous avez la tête inclinée. Je sais qu'il y a un frère qui est venu ici ce matin, frère Slink, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Sink, Jim Sink, qui est, je crois, est notre frère que voici, est reconnu comme mon saignon de cette parole. N'est-ce pas, frère Sink? Nous allons lui imposer les mains ce matin, juste avant de prier pour les malades, afin de leur donner comme ministre l'un de nos frères, afin qu'il aille prêcher l'Évangile dans les églises. Frère Jim Sink, voudriez-vous venir ici à l'hôtel? Viens, frère Neville. Frère Johnny Jackson, es-tu ici? Y a-t-il d'autres ministres qui partagent cette foi? Frère Jim Sink, que voici, croit cet Évangile que nous prêchons, le Fils de Dieu, de croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu, né d'une vierge. Est-ce bien ça, frère Sink? Vous croyez qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il a triomphé de tout et qu'il est assis à la droite de Dieu, dans les lieux très hauts, au cœur de la puissance de Dieu, qu'il vit à jamais et intercède pour nous? Vous croyez au baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés? Vous croyez au baptême du Saint-Esprit, exactement comme Dieu le donne, avec des signes et des prodiges qui accompagnent le croyant? Il croit cela. Et je crois qu'il mène une vie irréprochable devant les gens. Il prêche souvent ici à l'église pour ceux qui persévèrent ici. Et j'ai vu que c'est un merveilleux homme de Dieu. Maintenant, à cette église, y a-t-il quelqu'un ici qui a quelque chose à dire? Une personne qui a quelque chose à dire contre frère Sink? Dites-le maintenant, ou taisez-vous jamais. Combien croient que, selon la prédication de ce message et de cette parole, que frère Sink, et vous croyez que, par le témoignage du Saint-Esprit, que frère Sink devrait être ordonné et envoyé par cette Église en tant que ministre de l'Évangile pour proclamer des messages comme celui qui était prêché ce matin, partout où le Seigneur l'enverra dans le monde? Levez la main pour dire, je prierai pour vous, frère Sink, que Dieu vous bénisse. Courbons la tête. Frère Neville, s'il te plaît, impose les mains à frère Sink, tandis que vous posez votre main sur la Bible. Notre Père Céleste, ce matin, nous t'amenons un homme qui a été tiré de la corruption de ce monde. Il s'est regardé comme mort à lui-même. Il a accepté Christ comme son Sauveur. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Il s'est relevé avec la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Il est maintenant assis dans les lieux célestes. Il sent dans sa vie un appel au ministère. Ô Dieu, en présence de l'Assemblée, en tant qu'ancien et surveillant généraux de cette Église et tout, à qui le Saint-Esprit a donné la charge de veiller sur le troupeau, alors que le troupeau lève la main pour attester que Frère Singh est un homme juste. Frère Neville et moi, en tant que tes anciens, nous lui imposons donc les mains. Et ce faisant, nous prononçons la prière de la foi et ordonnons Frère Jim Singh dans le ministère de Jésus-Christ. Accorde-le, puisse-il être rempli de la puissance de Dieu, puisse-il ne jamais faire de compromis. Puisse-il gagner des âmes pour toi. Et, ô Dieu, nous lui promettons notre loyauté, notre fraternité et notre soutien, où qu'il soit, par nos prières, par notre aide et par tous les moyens possibles. Reçois-le, ô Dieu, alors que nous te le présentons. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors que vous avez les mains posées sur la parole, mon frère Singh, maintenant, je vous ordonne en tant que frère en Christ, dans notre confrérie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Et l'Assemblée a dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à faire dans l'Évangile. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes derrière vous à 100% et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'est-il pas merveilleux d'être un « Oh là là, j'aime voir des hommes, c'est très bien, c'est lui, si j'ai bien compris, qui prend la relève comme pasteur du tabernacle de la sainteté à Utica, Indiana, et il habite non loin de là. Maintenant, voyons un peu. Oh, est-ce que nous en avons, frère? Oh, je crois que nous avons des malades pour qui il faut prier, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce qu'il... As-tu distribué des cartes de prière? Très bien. Appelons quelques cartes de prière rapidement. Que tout le monde reste tranquillement assis un instant. Il est vraiment tard. Pouvez-vous me donner 10 minutes? Très bien. Les cartes de prière, que la personne qui a la carte de prière, à partir de quel numéro les as-tu distribuées? Hein? Très bien. La carte de prière numéro 1. Voulez-vous venir? Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. La carte de prière numéro 1, 2, 3, 4, 5. Venez-vous placer juste ici, le plus vite possible, là. Si vous pouvez vous lever. Si vous ne pouvez pas, eh bien, faites-le nous savoir. Nous viendrons vous chercher. Nous allons essayer d'en prendre le plus possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Seules 2 personnes se sont levées, là. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hein? Toutes les cartes, tous ceux qui ont des cartes de prière, déplacez-vous de ce côté-ci. Venez de ce côté, ici, de ce côté, s'il vous plaît. Oh, n'est-il pas merveilleux? Maintenant, que tout le monde soit le plus respectueux possible, pendant 10 minutes. Juste 10 minutes. Bon, ceux qui ont des cartes de prière, nous avons déclaré que les gens qui désirent que l'on prie pour eux, qu'ils viennent avec leurs cartes de prière, afin que nous ne... Voyez, ils reviennent encore et encore. Et ensuite, ils essayent d'utiliser les dons de Dieu comme une planche de Ouija. Mais nous ne croyons pas qu'il faut faire ça. Nous croyons qu'il faut simplement laisser Dieu faire son travail. Croyez-vous cela? Combien croient ce matin que ce message est la vérité? Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Je crois cela de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Bon, il semble que nous ayons une 50aine de personnes qui sont ici, afin qu'on prie pour elles. Quelque chose comme ça. Maintenant, écoutez. Là, chacun de vous est en Christ. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez triomphé de toute maladie. Vous tous qui êtes dans la ligne de prière, qui êtes chrétiens, des croyants nés de nouveau, levez la main. Votre position est donc en Christ. Vous avez déjà triomphé. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'accepter et de croire que ce que Dieu a dit est la vérité. J'aurais de la peine à faire du discernement dans cette ligne. Ce serait trop long à faire. Ça nous prendrait trop de temps. Ça ne le serait pas pour moi. Je crois que je pourrais rester ici toute la journée. Je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Je sais que ceci est vrai. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Maintenant, nous sommes à notre position, assis en Christ. Amen. Oh là là, est-ce que ces choses que je vous enseignais sont la vérité? Si c'est le cas, alors il se manifestera. C'est vrai. Combien d'entre vous dans la ligne de prière me sont inconnus? Je connais beaucoup d'entre vous, mais quelques-uns d'entre vous me sont inconnus. Levez la main. Ceux qui savent que je ne sais rien de ce qui ne va pas chez eux, levez la main. Tous ceux qui sont dans la ligne. Ah oui, Très bien. Est-il Christ? Vous croyez cela? Vous devez avoir la foi. Vous devez croire cela. Si vous ne croyez pas cela, alors cela ne marchera pas. Vous devez connaître votre position. Vous devez connaître votre place. Pas vrai, frère West? C'est vrai. Connaissez votre position. Christ a fait cette promesse. Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Croyez cela de tout votre cœur. Cet homme, debout là, au fond, a un problème à la hanche. Vous croyez cela de tout votre cœur. Vous ne pouvez pas venir dans la ligne de prière, mais vous pouvez retourner vous asseoir. Ça partira. Et ce n'est pas un cancer. Retournez vous asseoir. C'est réglé. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Si nous sommes des inconnus, frère, levez la main. Si nous sommes des inconnus, qu'est-ce qu'il y a? Il est guéri. Ici, à l'autel, croyez-vous? Et vous? Nous sommes des inconnus. Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Vous croyez que je suis son serviteur? Vous croyez ce message que j'ai prêché? Et si je vous disais que vos problèmes de dos allaient partir? Vous croyez cela de tout votre cœur? Monsieur Burkhardt, retournez dans l'Ohio. Vous êtes guéri. Jésus-Christ vous rétablit. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est une femme. Et elle est aussi de l'Ohio, c'est vrai. Elle s'appelle Alice McVan. C'est exact. Elle a subi une opération. C'est exact. Problème d'estomac, problème gynécologique et nervosité. Est-ce vrai? Croyez seulement et elle se rétablira. Allez et croyez cela de tout votre cœur. Croyez cela de tout votre cœur, elle l'obtiendra. Bonjour, je ne vous connais pas. Nous sommes des inconnus, pas vrai? Vous croyez que je suis son serviteur? Vous croyez que nous avons triomphé en Christ? Si vous le croyez, malgré cette nervosité, ces maux dont vous souffrez et tout, alors, Madame Allen, vous pouvez retourner à la maison et vous serez rétablie. Je crois que nous sommes inconnus, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais vu auparavant. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Croyez-vous que je suis son prophète? Vous le croyez? Vous souffrez d'un problème rénal. C'est exact, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez du sud. Vous priez pour vos enfants qui ne sont pas sauvés. C'est votre mari, là, derrière vous. Ce matin, il a un fardeau sur son cœur pour un homme. C'est un ami pour qui il prie. Dites donc, je vois quelqu'un, vous êtes une amie de ma mère et de mon père. Je vois un homme ici, il s'appelle L.C. ou S.T. ou quelque chose comme ça. S.T. ou quelque chose, c'est votre fils. J.T. Voilà, c'est ça. S.T. Non, ce n'est pas J.T., je le sais. C'est un petit homme aux cheveux noirs. Je l'ai vu se tenir juste ici, devant, où il se tient maintenant. Rentrez chez vous, votre demande vous est accordée. Retournez à la maison. Est-ce que cet homme est ici ce matin? C'est un homme qui vient de la Géorgie? Oui, T.S., oui. Je n'ai jamais vu votre père ni votre mère de ma vie. Et vous savez que c'est vrai. Mais je vous ai vu apparaître juste ici devant eux, à ce moment-là. J'ai su que c'était cela. Votre demande vous est accordée. Ne doutez pas. Vous croyez tous de tout votre cœur? Maintenant, combien, chacun d'entre vous, vous êtes tous en Christ? Vous dites, est-ce que ça, c'est l'Évangile? C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. C'est exactement ce que les apôtres ont fait. C'est exactement ce qu'Irénée et les autres ont fait. C'est exact. Vous croyez cela? Alors, courbez la tête. Ancien, viens ici. Il y a trop de monde dans la ligne pour qu'on puisse les faire passer tous comme ça. Nous en avons pris deux ou trois, là. Descends ici. Mon frère Neville, ici, est un homme de Dieu. Je le crois. Nous allons faire passer ces gens qui sont ici, dans cette ligne de prière, et prier pour eux, leur imposer les mains. Vous croyez tous que vous allez vous rétablir, chacun de vous? Vous tous qui êtes ici, vous allez croire cela? Alors, courbez la tête maintenant. Nous sommes dans l'église triomphante. Seigneur Jésus, je connais ce frère. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai rien dit à ce sujet. Je sais ce qu'il désire. Je te prie de le guérir, Seigneur, et de lui donner ce qu'il a demandé, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, alors que nous imposons les mains à ce petit frère ce matin, nous réclamons sa délivrance, au nom de Jésus. Amen. Oh, vous êtes, Père Céleste, accorde à notre sœur Dan, que voici, une sœur charmante, qui a été une véritable amie pour nous ici, pour ma famille et pour nos bien-aimés. Nous croyons qu'elle et son mari sont tes enfants. Je te prie, ô Dieu, de lui donner ce qu'elle a demandé ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ô Dieu, au nom de Jésus, bénis notre sœur Bruce. Nous savons, Seigneur, qu'elle est ta servante. Nous te prions de lui donner ce qu'elle a demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père Céleste, nous sommes conscients que toi seul peux guérir sœur Blanco. Alors nous te prions de la bénir et de lui accorder cette demande, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, nous imposons les mains à notre sœur au nom de Jésus-Christ et réclamons sa délivrance pour ta gloire. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous imposons les mains à cette sœur et elle sera guérie. Au nom de Jésus, accorde le Seigneur. Alors que ce corps nerveux et tout tremblant se tient ici, Seigneur, sous l'effet du Saint-Esprit, est fatigué, mais tu es Dieu. Guéris cette jeune femme, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, donne à notre frère ce qu'il a demandé. Accorde-le, Père. Nous lui imposons les mains et condamnons l'ennemi, tout ce qui voudrait empoisonner son âme ou présenter une accusation contre lui. Seigneur, puisse-t-il se lever en triomphant de ces choses ce matin et prendre conscience de sa position en Jésus-Christ et qu'ainsi il obtienne ce qu'il demande au nom de Jésus. Notre Père Céleste, alors que nous imposons les mains à notre frère, au nom de Jésus-Christ, accorde-lui sa demande. Amen. Cette mignonne petite fille, Père, au nom de Jésus, que le Seigneur soit miséricordieux. Nous réclamons sa délivrance pour la gloire de Dieu. Ô Dieu, nous connaissons le cri du cœur de cette mère et le cri de sa fille. Ô Dieu, accorde-lui la foi ce matin et fais qu'elle puisse l'utiliser maintenant, sachant qu'elle a le pouvoir là-dessus. Et cela lui sera accordé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, guéris ce petit garçon. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre sœur. Et ce matin, nous te demandons de lui accorder sa demande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste, alors que cette petite dame vient prendre place pour la guérison, nous lui imposons les mains et réclamons sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous imposons les mains à ce mignon petit enfant au nom de Jésus-Christ et nous demandons sa guérison. Au nom de Jésus-Christ, alors que nous imposons les mains à notre sœur, puisses-tu la guérir maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous imposons les mains à ce garçon. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-il croire cela. Amen. Père Céleste, à notre noble frère ici, Seigneur, ton serviteur, un homme de Dieu, nous lui imposons les mains afin que sa demande lui soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, puisse-il prendre sa position maintenant. Voici maintenant un Fils de Dieu, en ce glorieux temps de la fin pour nous tous. Père Céleste, à notre brave sœur qui sort des ténèbres pour marcher dans la lumière, accorde, Seigneur, que ce matin, son âme valeureuse s'élève très haut dans l'atmosphère céleste et accorde-lui sa demande. Au nom de Jésus, amen. Père Céleste, nous avons les mains posées sur notre frère que voici, au nom du Seigneur Jésus, et nous te prions de lui accorder cette demande. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Notre Père Céleste, nous imposons les mains au bébé de notre sœur. Et Père, nous te prions de lui accorder sa demande, alors que nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à notre sœur, au nom de Jésus-Christ. Puis sa demande lui être accordée au nom de Jésus. Amen. Notre Père Céleste, alors que notre sœur passe dans cette ligne de prière pour nous lui imposons les mains, puisse le Christ de Dieu s'approcher maintenant pour condamner le problème et la guérir. Amen. Père Céleste, nous imposons les mains à notre frère et nous te demandons au nom de Jésus-Christ de le guérir au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, nous imposons les mains à cette fillette et nous demandons à notre précieux Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous demandons sa guérison. Amen. Notre précieux Seigneur, nous imposons les mains à notre frère, au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, en qui nous sommes plus que vainqueurs. Nous te demandons de donner à notre frère ce qu'il a demandé, au nom de Jésus. Amen. Notre Père, nous imposons les mains au frère de cette servante, ce petit soldat de la croix. Je prie au Dieu que ton esprit vienne sur lui et que tu lui accordes sa demande. Au nom de Jésus-Christ, amen. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à ce vaillant soldat de la croix. Il a pris position pour ta parole face à la critique et tout. Et il s'en est quand même tenu à la parole. Il en est sorti plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donne-lui ce qu'il a demandé, Père. Je fais cette prière pour que tu lui donnes ta bénédiction, Seigneur, que tu le guérisses et que tu lui donnes ce qu'il a demandé. Au nom de Jésus, amen. Père Céleste, ce bébé ne peut pas vivre sans l'intervention de Dieu, mais Dieu peut le rétablir. Je lui impose les mains et je condamne l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Bénis cet enfant et aide-le à prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Plus que vainqueur. Père Céleste, nous imposons les mains à notre sœur au nom de Jésus-Christ, le tabernacle triomphant de Dieu qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Puisses-tu, par son nom, le nom vertueux du Fils de Dieu, Jésus-Christ, donner à notre sœur ce qu'elle a demandé. Amen. Notre sœur Kid, soyez bénie. Notre Père Céleste, alors que je tiens les mains de cet homme et de cette femme âgée que voici, lui qui prêchait l'Évangile quand je n'étais qu'un petit garçon, il y a quelques jours, il se mourait d'un cancer. Je me suis hâté d'aller le voir. La puissance de Dieu est descendue sur un homme de 80 ans et l'a guéri. Au point que les médecins étaient étrangement silencieux, ils n'arrivaient pas à comprendre cela. Je te prie de lui accorder sa demande ce matin. Sa petite femme bénie, Seigneur, qui faisait des lessives sur une planche à laver pour envoyer son mari au ministère, afin qu'il prêche cet évangile ensanglanté de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. Bénis leur fils, Junior. Seigneur, nous te prions de le rétablir et de le garder vigoureux, Seigneur. C'est lui qui les aide et les transporte d'un lieu à l'autre pour qu'ils puissent poser des mouchoirs. Bien qu'ils soient si avancés en âge et qu'ils ne puissent plus aller sur le champ de mission, ils vont quand même dans les hôpitaux et dans les maisons pour poser des mouchoirs sur les malades. Ô Dieu, tu honoreras cela. Je sais que tu le feras. Bénis-les et donne-leur de la vigueur pour beaucoup de jours encore, Père. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse. Cela vous sera accordé, frère Kid. Cela vous sera accordé. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, celui pour qui nous avons prié au téléphone. Un homme et une femme âgés de 80 ans et plus. Il ne peut plus aller sur le champ de mission et se tenir debout à la chair. Il est trop âgé maintenant pour prêcher comme ça. Mais il fait quand même des demandes ici pour recevoir des paquets de tissus de prière qu'il envoie aux malades et aux affligés. Et il les apporte dans des hôpitaux et tout. Il les pose sur les... Ils ne peuvent plus sortir et soutenir le ministère de cette manière. Mais ils continuent du mieux qu'ils peuvent. Cela devrait nous pousser à avoir honte de nous-mêmes, nous les jeunes. C'est vrai, faire quelque chose pour Christ. Souvenez-vous, cet homme âgé que voici, frère Kid, prêchait l'Évangile avant ma naissance. C'est vrai, il était là, à prier pour les malades. Un brave soldat âgé. Le voici, âgé. Quel âge avez-vous, frère Kid? 81 ans. Elle continue de combattre pour le royaume de Dieu. Il est trop âgé pour se tenir à la chair et apporter un message comme ça. Mais il va dans les hôpitaux, au chevet des malades. Il a un garçon qui les conduit partout en voiture. Ils ne peuvent pas y aller en marchant. Alors, on les conduit en voiture et on les emmène quelque part. Et les deux, ce vieux couple, ils vont là-bas et posent des mouchoirs sur les gens. Ils avaient une bien-aimée qui était à l'article de la mort l'autre jour. Une fille, ils m'ont parlé à l'instant. Nous avons prié pour elle. C'était leur petite fille. Ils sont allés poser. L'enfant est maintenant guéri. Gloire à Dieu. Quant à frère Kid, on m'avait appelé ici il y a quelque temps. Je pense que c'était il y a environ 2 ans, parce qu'il avait un cancer de la prostate. Il avait environ 78 ans ou 80 ans. Il avait près de 80 ans et il avait un cancer de la prostate. Le docteur avait simplement abandonné son cas. Il ne pouvait rien faire pour lui. Nous étions allés en hâte, Billy et moi. Nous nous étions relayés au volant pour nous rendre là où il se trouvait. Le Saint-Esprit nous avait dit d'y aller ce matin-là. Habituellement, nous ne le faisons pas à moins d'être conduits à le faire. Le Saint-Esprit a dit « Vas-y » et nous y sommes allés. Et nous avons imposé les mains à ce vieil homme pour prier pour lui. Et les médecins n'en trouvent même plus la moindre trace nulle part. Gloire à Dieu. Oh, pourquoi ? Notre position est en Jésus-Christ, qui nous a élevés bien au-dessus de toutes les maladies et de toutes les puissances de l'ennemi. Oh, n'êtes-vous pas heureux à cause de lui ?
Almost everywhere, whose hearts are all on flame, with this fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Combien sont l'un d'entre eux? Levez la main maintenant.
One of them. I'm so glad that I can say one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Now come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in an upper room, all praying. They were baptized with the Holy Ghost. Then power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah. One of them. One of them. Oh, I'm so glad that I can say one of them.
Now, maintenant, pendant que nous le fredonnons, serrons-nous la main les uns les autres. Dites
one of them. One of them. I'm so glad.
Hallelujah, I'm one of them. One of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you saying
amen?
I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How of them.
Est-ce que je peux chanter ce couplet encore une fois?
Though these people may not learn to be, they don't have any great big DD PhDs, you see, no great big things. These people may not learn to be, nor boast of worldly fame, some great organization. They have all received their Pentecost, every one of them baptized in Jesus' name.
Hallelujah.
And they're telling now both far and wide, His power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, même pour tout l'or du monde, je ne quitterai pas ce précieux endroit, bien que le tentateur ait souvent cherché à me convaincre. Mais je suis en sûreté dans l'attente de Dieu. Son amour et sa grâce me rendent heureux. Et je vis dans le cœur des Alléluia. Oh là là, J'en suis tellement heureux. Pas vous ? N'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux ? Juste l'un d'entre eux, l'un de ces gens humbles qui se sont complètement vidés et se sont prosternés. Pas devant une idole, devant un Dieu vivant, pas devant une organisation, pas en inscrivant leur nom dans un registre, devant un Dieu vivant, non pas pour réciter un credo, mais pour laisser la parole devenir chair en eux. Voyez, c'est ça, vous vous humiliez, et là, il vous élève au-dessus, non pas pour que vous soyez emporté, enflé d'orgueil, et que vous disiez « je suis ceci, cela, autre chose », mais dans l'humilité, la douceur. Et comment donc a-t-il sauvé un misérable comme moi? Comment donc l'a-t-il fait? C'est ainsi que le vrai chrétien se sent. Ne croyez-vous pas cela? Oh, il est si réel.
Real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Real, he's so real to me.
Chantez-le.
Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me.
Oh, j'en suis tellement heureux. Oui, monsieur. Oh, je suis si heureux de ce bon évangile à l'ancienne mode, de vivre ce glorieux évangile à l'ancienne mode. Maintenant, mes amis, jusqu'à ce que nous nous revoyons au trône de Christ, souvenez-vous de moi dans vos prières. Que Dieu vous bénisse tous. Je ne peux pas dire que je suis désolé de vous avoir retenu ici. Maintenant, quant à vous, dont le mouchoir était posé ici, j'ai posé mes mains là-dessus pendant que nous étions en train de prier pour les malades. Si vous l'avez remarqué, je l'ai fait dès que l'Esprit est descendu sur moi. Je ne me suis pas permis d'avoir trop de vision parce que je suis faible, fatigué. Vous savez, ça fait maintenant 2 ou 3 heures que je suis ici en train de prêcher. J'en ai juste eu quelques-unes pendant la ligne de prière, afin que vous puissiez voir que Dieu est Dieu. Voyez, l'impossible, le paradoxe, les choses insondables, le diable. Maintenant, souvenez-vous, chacun de vous a de la puissance en Christ. Vous n'avez pas de puissance, vous avez de l'autorité, votre autorité. Vous êtes élevé, loin, au-dessus, non pas que vous vous êtes élevé vous-même, mais c'est Christ qui vous a élevé. Plus Christ vous élève, plus vous voulez vous humilier. Voyez, vous vous sentirez si humble. Alors, comment donc pourrait-il sauver un misérable comme moi? Comment donc l'a-t-il fait? Il l'a pourtant fait, et j'en suis reconnaissant. Amen. C'est si bon.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious, precious name, oh, how sweet. Oh, hover and joy. Precious name, isn't he wonderful?
Oh, how sweet, how sweet.
Oh, Father, and joy of heaven.
Bon, écoutez, n'oubliez pas ceci. Chantez le refrain et laissez-moi chanter le couplet. Voyez, je ne sais pas si je peux me rappeler le couplet que je veux chanter. C'est le suivant. Nous nous courberons devant lui, nous prosternons à ses pieds pour le couronner roi des rois. Le voyage terminé. Voyez, revêt-toi du nom de Jésus comme d'un puissant bouclier. Quand les tentations surviennent, murmure simplement ce saint nom en priant. C'est tout. Levez la main, écoutez les freins hurler. Voyez, voyez.
Breathe that holy name in prayer, precious name. Oh, how sweet. Oh, Father. joy of His precious name. Oh, precious name.
Oh, how sweet.
Disons-le encore, tous ensemble. Qu'en dites-vous? Reprenons ce couplet. Revêt-toi du nom de Jésus comme d'un puissant bouclier. Plantons-le maintenant, les yeux fermés.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. Now listen, what do? When temptations round you gather, what must you do? Breathe that holy name in prayer.
Precious name,
precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet. Oh, Father.
Je ne peux pas. Non, je suis un peu enroué. Je me suis un peu enroué. Donc, je ne dirai pas, veux-tu terminer? Non, ça va, continue. C'est très bien. Maintenant, votre pasteur, frère Neville.